Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description. Je suis très heureuse de partager avec vous cet épisode best-of de Pourquoi pas moi. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le parcours de certains de mes invités. Bonne écoute!
Ça a été très dur pour moi au début d'oser assumer ce côté j'ai tout lâché pour finalement que des cours de couture, quoi. Je le dis comme ça, quoi. J'avais été bardée de certifs et de diplômes et tu gérais des millions d'euros, en tout cas de business à la clé, avec des grosses équipes. Il y a la moitié des gens que tu largues au milieu en disant oui et pourquoi t'as fait ça, quoi. Il y a eu ceux qui ont dit mais tu vas jamais gagner autant. Ouais, mais en fait, je t'as pas compris, mais c'est pas le sujet, quoi. Voilà, le sujet n'était absolument pas une histoire d'argent, c'était vraiment une histoire de me lever le matin. Et depuis 5 ans, et je le dirai jamais assez, moi, quand je me lève le matin, j'ai la patate. Je n'imagine pas de m'inventer un nouveau job parce que celui que j'aime me plaît et que je me le réinvente tous les jours. Alors qu'auparavant, tous les 2 ans, fallait que je change. Au bout de 2-3 mois de boulot, je me levais le matin en me disant, punaise, la suite de la carrière, ça va être compliqué quand même.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans coupe, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un email très touchant de Christine. Christine aura mis près de 5 ans pour vraiment assumer son changement de vie, même si son activité cartonne et qu'elle est véritablement à sa place. Aujourd'hui, elle nous partage en avant-première les coulisses de cette magnifique réussite. Si toi aussi tu rêves d'écouter ta petite voix et de découvrir où est ta place, c'est justement ma mission à moi. Le programme « Trouver sa mission de vie et écouter sa petite voix » est d'ailleurs finançable à 100% avec ton CPF. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. Et comme tu le sais, si le podcast te plaît, abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée. Revenons-en à Christine. Elle a fait Supélec, puis a commencé une carrière sur le papier toute tracée. Plus de 16 ans en tant que directrice de projet chez Airbus, puis 3 ans chez Thales. Au bout de 18 ans de grand groupe, Christine a assumé le fait que son truc à elle, c'est de donner des cours de couture. Elle a créé il y a 5 ans Rêve à soi, où elle forme entre autres CAP. Christine a également écrit un best-seller chez Erol. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Christine Charles.
Bonjour Christine.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Alors, j'ai pris 2 objets. J'ai un petit chaudron Harry Potter avec un joli tissu turquoise qui sort de ça. Cet objet, c'est assez rigolo parce que on l'a acheté à l'occasion d'un voyage qu'on a fait avec mon mari et mes enfants à Londres, à l'époque, on pouvait encore voyager. Alors, il y a de ça déjà pas mal d'années, 2015. Et en fait, moi, je suis très fan d'Harry Potter. C'est une expo que j'ai adorée. Et enfin, c'est un espèce de plus qu'une expo. Alors, si vous avez l'occasion d'y aller, vraiment, allez-y, c'est super. Et sortie de l'expo, tu sais, t'as une espèce de boutique où t'achètes des trucs. Puis moi, j'achète jamais rien. Puis ma fille avait insisté pour m'acheter en me disant, achète-moi un truc, vraiment, fais-toi plaisir. Et en fait, ce chaudron est devenu un peu mon espèce d'emblème de la couture, parce que dans la couture, il y a toujours des choses achetées et en général, c'est des trucs pas beaux. Donc voilà, c'est ma poubelle de table, mon usine à rêve. Il y a ce tissu turquoise qui est ma couleur préférée, que tout le monde aura compris pour les personnes qui me suivent. Et du coup, voilà, il y a ce tissu qui sort de là, c'est l'espèce de rêve qui sort. Et à côté de ça, je t'avais envoyé la photo de matériel de modélisme, en fait. Donc, une équerre et ce qu'on appelle un pistolet ou un perroquet, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une espèce de trace courbe. Et en fait, c'est un outil qui fait un peu la jonction entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie, c'est-à-dire mon ancienne vie d'ingénieur où j'adorais déjà faire du dessin industriel, et ma nouvelle vie où finalement le modélisme, c'est ce que j'enseigne tous les jours. Donc, voilà.
C'est une belle métaphore. Et avant qu'on parle de cette vie d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi ?
Alors, moi, je suis née à Montpellier par un pur hasard de la carrière de mon père qui travaillait pour l'État et donc qui avait eu un poste pendant quelques années à Montpellier. On n'est pas resté très longtemps là-bas puisque au bout de 3 ans, mon père a été muté sur la région parisienne. Donc, j'en ai quasiment pas de souvenirs, on va dire. Hein, c'est normal, 3 ans. Après, j'ai toujours vécu en région parisienne avec, je dirais, une enfance assez choyé quand même, en pavillon de banlieue, tu vois, un petit jardin, voilà, une ambiance un peu sympa. Mes parents ont eu la chance de pouvoir faire construire une maison où nous avons déménagé, j'avais peut-être 8 ans. Donc, ça a été un gros changement parce qu'on a changé de ville, j'ai abandonné toutes mes copines, enfin voilà, c'était un peu déracinement. Et puis, comme c'était... une maison finalement un peu plus grosse que celle des autres. Je me démarquais un peu des copines. Enfin, voilà. Donc, il y a eu un changement un petit peu drastique à ce moment-là.
Et quand tu dis que ça faisait un décalage par rapport aux copines, tu te démarquais, c'est plutôt dans le sens positif ou négatif?
Non, parce que quand des copines habitent en appartement et que toi, tu habites une grande maison, quand elles viennent jouer à la maison, il y a un petit côté…
de jalousie, ouais.
Ça fait vite un petit gap, pas forcément facile à gérer quand t'as qu'une dizaine d'années. Mais bon, j'avais encore pas mal de copines jusqu'au primaire. J'ai eu, je pense, une enfance assez voilà, normale. Voilà. J'étais une élève, par contre, très réservée. Alors, ça fait toujours rire les gens quand ils me connaissent maintenant, quand je leur dis que j'étais hyper timide, que je parlais à personne. J'adorais lire, j'avais que des activités solo, tu vois, des trucs. Vraiment, je me louais. Donc, j'avais quelques super bonnes copines, mais alors, genre, tu les comptes sur les doigts d'une main, quoi. C'était quand même une période où l'avantage, c'est qu'à ces âges-là, quand même, les gamins sont assez ouverts et il n'y a pas encore trop de jalousie.
Mais c'est amusant parce que tu vois, dans différentes personnes que j'ai interviewées qui me disaient être très, très timide enfant, je pense à Heidi Sevestre, qui est glaciologue, donc docteur des glaciers, qui aujourd'hui est professeure à l'université de glaciologie, qui fait des documentaires à la télévision sur la glaciologie et qui, en fait, finalement, aujourd'hui, n'est plus dans l'univers scientifique, mais plus sur la partie promotion de sa science. Et elle disait, quand elle était petite, elle était très, très, très timide. Et pareil, tu vois, c'est l'épisode qui va être diffusé cette semaine avec Charlotte Ducharme, qui a créé Cool Parents Make Happy Kids, qui, en fait, Charlotte, elle fait des conférences, elle a écrit un bouquin, elle se met en scène dans des vidéos et tout. Et elle dit, mais petite, elle était hyper timide. Et tu dis, c'est fou de se dire qu'en fait toutes ces personnes moi je pense que j'en fais partie aussi parce que quand papa il me rappelle que quand j'étais petite je lui lâchais pas la jambe quand il y avait du monde, qu'en fait on parle souvent du moi enfant et compagnie, alors il y a évidemment des choses qui restent, mais souvent les plus timides, est-ce que finalement il y a quelque chose qui nous bloquait, je sais pas, c'est amusant de voir ça.
Oui, ça fait partie. Pourtant, j'ai fait beaucoup de travail d'introspection sur plein de trucs, mais alors sur cet aspect-là, j'en sais rien. Par contre, c'est vrai que j'ai écouté ton podcast sur la théorie de la veste l'autre jour, et je raconterai un peu plus tard, tu penseras à me poser la question, comment justement je me suis un peu forcée à sortir cette timidité en allant mais vraiment dans une zone d'inconfort total à l'occasion d'un stage d'été, et ça a été tout d'un coup, je suis passée du non timide à vas-y, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, quoi. Je l'ai pas fait volontairement, mais c'est vrai que je me suis un peu forcée à me dire bon là ça suffit, quoi.
Il y a un moment il faut y aller, quoi.
Il faut sortir sa petite zone de confort, ça peut pas le faire dans ce que tu veux faire plus tard.
Et comme dit Annabelle, donc qui est l'auteur de la Annabelle Roberts, qui est l'auteur de la théorie de la veste, c'est voir quelle est ta peur et aller justement l'affronter, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir la dépasser.
Exactement. Mais je l'ai fait de manière totalement...
Oui, à conscience.
Sans le théoriser, en tout cas.
Ouais. Et quand tu étais petite, c'était quoi tes rêves ?
Alors, mes rêves... parce que je sais que tu poses la question à chaque fois, donc je me suis préparée. j'ai fait mes petites dentistes. J'ai essayé un petit peu de me souvenir. Hein. C'est assez marrant parce que j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs d'idées, si tu veux, de quand j'étais enfant, mais par contre d'activités, oui. Et c'est vrai que J'étais beaucoup déjà dans des activités manuelles. Alors, j'habillais mes poupées, je faisais énormément de maquettes d'activités manuelles. Enfin, mon père adorait bricoler, donc je bricolais avec lui. J'étais abonnée à une revue qui, je crois, existe encore, qui s'appelle Astrapi, et tous les mois.
Ah oui, ça existe encore, ouais.
Il y avait des revues de bricolage qu'il fallait construire. Donc, j'enquiquinais mon père à dire, papa, il faut aller acheter du bois, du balsa, du machin, et il faut faire le truc qui a écrit dans Astrapi. Donc, on a collectionné un certain nombre de trucs de bricolage de gamins comme ça. Mais c'est vrai que j'adorais construire, créer. Enfin, il fallait que je m'occupe comme ça. Et je pense que du coup, mes rêves, c'était un peu de continuer à construire, créer. Et puis sinon, bah, c'est vrai que je pense que je vivais beaucoup dans l'instant présent, si tu veux, dans ce côté un peu insouciant de l'enfance où tu te projettes pas forcément sur quelque chose. Mes idées de métier sont venues plus tard, c'est-à-dire plutôt au niveau du collège à ces moments-là.
Et c'était quoi alors ces idées ?
Eh ben en fait, je me souviens très très bien qu'en quatrième, on a eu un prof de, alors ce qui est devenu la techno depuis, hein, qui nous avait fait travailler sur c'est quoi le logement le mieux adapté et construisait une maquette de ce logement-là. Et j'ai adoré ce projet, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis mis à construire une espèce de maquette de maison, mais un truc incroyable, et qui avait du reste été exposé à l'expo de fin d'année du collège, j'étais très très fière de ça, et de là, je m'étais dit, moi je vais être architecte, voilà, c'était un métier qui me bottait, je me disais, c'est chouette, tu construis des maisons, et en même temps, tu fais du bien aux gens, parce que quelque part, tu leur agences le truc comme ils le sentent, mais en même temps, le truc intelligent qui va leur permettre d'être bien chez eux, quoi. Bon, je pense que l'expérience de l'année qu'on vient de passer montre que c'est primordial, mais voilà, c'était pour moi c'était intéressant de le voir comme ça. Alors c'est vrai que malheureusement ou heureusement, j'ai un père qui travaillait dans ce secteur-là, donc qui gérait une société de gestion immobilière tout simplement. Et ancien ingénieur lui aussi, et qui me disait oui, mais Christine, le problème c'est qu'en France, alors excusez-moi pour les architectes si c'est pas vrai, hein, j'en sais rien, mais qui m'a dit, les problèmes des études d'architecture, c'est que les architectes, ils savent faire des beaux trucs, mais ils n'ont pas les compétences techniques pour savoir si c'est réalisable ou pas. Alors, tu sais, bon… Bah,
c'est souvent vrai. Hein.
Ouais, écoute, la parole du père, qui avait très souvent raison en plus, donc j'avais aucune raison de remettre en cause ça. Et du coup, il me dit, bah, écoute, tu fais plutôt des études d'ingénieur et puis tu complétera par de l'architecture derrière, quoi. Ok, d'accord, ça me va bien, voilà. Bon, à côté de ça, pour celles qui me savent, je continuais à énormément coudre, à énormément faire d'activités. Mais à ce moment-là, j'ai jamais imaginé en faire vraiment mon métier. Peut-être que je me suis jamais permis. Aussi parce que, peut-être parce que, si tu veux, j'étais dans une famille où enfin la couture c'était pas un métier, hein. Enfin c'était pas envisageable d'en faire un métier, voilà.
Et ta maman travaillait?
Ma maman a fait des études de commerce, mais s'est arrêtée de travailler dès qu'elle nous a eus, comme ça malheureusement ça se faisait encore souvent de cette génération-là. Et elle avait repris un petit peu d'activité ponctuellement certaines années, voilà. Elle avait mon père dans une partie de sa carrière, enfin qui a eu un coup de main sur certains postes, mais voilà, c'est une activité assez sporadique. Et par contre, c'est vrai que moi j'ai toujours senti que ça l'avait gêné d'avoir fait des études et de pas en avoir fait quelque chose, si tu veux. Donc j'ai vécu dans cette ambiance, que forcément, et je comprends qu'elle ait transmis ça, c'est ok, fais des études, mais fais-en quelque chose. Enfin, déjà, fais des études, voilà, déjà, mais sans la pression, si tu veux. C'est-à-dire, fais les études que tu peux te permettre de faire. C'est-à-dire, j'ai jamais eu les parents derrière, bon, allez, il faut bosser et tout. Disons que je me mettais la pression toute seule. Hein. J'ai pas eu besoin d'eux pour ça. Et puis, ben, il se trouve que j'avais aussi des capacités, donc en même temps, ils n'ont pas eu besoin de pousser non plus par rapport à ça. Voilà. Mais j'ai toujours vécu dans cette ambiance de. La réussite, c'est des bonnes études et faisant un bon métier derrière, quoi. Voilà. Et de préférence, un métier intelligent qui n'est pas trop mal payé. Voilà. C'est cette ambiance-là. Bon, je pense que je ne sors pas trop du cadre quand je dis ça. Et c'est vrai que du coup, ma mère est par contre très artistique. Elle me raconte toujours qu'elle était première en couture à l'école. Enfin, elle
adorait. Parce qu'à l'époque, eux, ils avaient des cours de couture.
Oui, c'est ça. Et limite, si elle avait pu faire quelque chose dans l'artistique, ça lui aurait pas. Donc j'ai toujours baigné dans cette espèce, tu vois, mon père qui adore bricoler mais ingénieur, ma mère qui est un peu quand même avec des études de commerce et un peu artistique. Donc ça, c'est une espèce de doux mélange de on est super carré, mais en même temps on fait un peu d'artistique. Donc je suis un peu un mélange de tout ça. Mais je pense que malgré tout, l'idée c'était bon, l'artistique ça reste du côté loisir, hein. Et le boulot, c'est autre chose. Et on mélange pas forcément les deux, quoi. Donc, je me suis jamais autorisée à imaginer que l'artistique puisse devenir un métier et encore moins l'activité à 100% qu'on pouvait avoir. Donc, ça, c'était, je dirais, jusqu'en quatrième, troisième. Alors, il faut savoir, j'ai eu des années de collège très difficiles parce que j'étais, encore une fois, un peu en marge. En fait, moi, je travaillais très bien, j'avais de super notes. Je ne faisais pas grand-chose pour avoir des super notes. J'énervais un peu les autres à cause de ça. Et c'est les années où, limite, en tout cas, à cette époque-là, t'étais bien vu si tu foutais rien. donc, du coup, j'avais très peu d'amis. Et le collège a été un peu compliqué pour moi parce que voilà, je me retrouvais pas dans… J'avais pas de valeur commune avec les gens avec qui j'étais en classe. Et donc, très peu. Mes amis se comptaient encore que sur les doigts d'une main, mais là, pour le coup, plus parce que j'avais pas trop d'autres choix. Et ça a été beaucoup mieux quand je suis arrivée au lycée, où alors là, tout d'un coup, je suis devenue beaucoup plus ouverte avec plein de copines.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que je pense que j'ai enfin trouvé des gens qui avaient les mêmes valeurs que moi et un peu d'ambition, quoi, voilà, qui avaient envie de faire quelque chose avec ce. Et puis on pouvait discuter de choses de fond, voilà, qui aimaient les mêmes sujets, les mêmes centres d'intérêt, même lecture. Et là, en fait, je me suis un peu poussée. C'est assez marrant parce que j'ai toujours aimé la fantasy, la science-fiction. Je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie de. Et donc, je me suis mis à jouer aux jeux de rôle. Je sais pas si tu connais ces jeux de rôle. Donc, c'est des jeux de plateau où en fait, on s'invente un personnage. Donc, on sait un. Et à l'époque, c'était un truc, mais uniquement masculin, quoi. Il y avait que les gars qui jouaient à ça. Et moi, je me suis dit, mais moi, j'adore ce truc, cet univers-là. Pourquoi je ferais pas un club de jeux de rôle de filles avec mes copines, quoi? Parce qu'après tout, on s'éclate très bien. Et effectivement, j'ai trouvé 5 copines qui ont complètement kiffé le truc. Je suis devenue maître de jeu. Donc, c'est en plus le truc où les filles sont encore moins dans le milieu. Et puis, j'ai commencé à intégrer des gars et on a fait les premières parties mixtes et les gars ont adoré, enfin, ils ont halluciné au départ parce que c'est vrai que quand tu vois, j'avais une copine, une grande blonde, super élancée, aux yeux bleus, qui commence à annoncer qu'elle sort son bazooka pour aller tuer je sais pas quoi, le gars, il est assez là, oh là, au secours. Non, mais bref, tout ça pour dire que c'était des belles années. Et j'ai commencé un peu à sortir de ma coquille grâce à ça. C'est-à-dire qu'en fait, en jouant le rôle de quelqu'un d'autre, c'était plus facile de commencer à se dire allez je puis j'étais dans un environnement facile et tout. Et puis pour justement revenir sur comment on sort de sa coquille, je sais plus si c'était à l'âge de 16 ou 17 ans, je prends un petit boulot d'été par relation de mon père dans une agence de gestion immobilière où il cherchait des gens pour faire de la. En fait, c'était choisir qui allait avoir les logements en location et puis il fallait relancer les mauvais payeurs, tu vois. Il fallait prendre son téléphone pour appeler les gens et pour leur dire bonjour, pourquoi vous n'avez pas payé votre loyer? Le truc vachement sympa, donc t'as 17 ans. Et là, je peux te dire que ça a été le plongeon dans le grand. C'est-à-dire que t'es super timide. Déjà, moi, prendre mon téléphone, c'était l'horreur. Même pour appeler quelqu'un que je connaissais. Appeler quelqu'un que je connaissais pas, alors là, c'était inenvisageable. Je mettais 2 heures avant de me dire, bon, allez, on va y aller. Et là, tout d'un coup, il faut que tu appelles quelqu'un et tu sais que tu vas te faire engueuler au bout du fil parce que de toute façon, ces gens-là, s'ils n'ont pas payé, c'est pas pour rien. Ou tu te fais engueuler ou alors t'as des histoires difficiles de vie qui font que... Je suis sortie de là, enfin, je fais court, mais je suis sortie de là, mais alors... C'était plus un problème d'appeler qui que ce soit. Je pouvais appeler qui que ce soit. C'était plus un problème de parler à qui que ce soit. Enfin bref, ça a été vraiment le côté. Je me suis pris des vestes pas possibles. Je me suis fait engueuler au téléphone. Mais au bout d'un mois, c'est bon. J'étais plus timide. Quoi. Donc, je conseille vraiment aux gens, si vous êtes timide, trouvez-vous un truc horrible comme ça. Et puis après, vous verrez, ça va aller beaucoup mieux.
Allez-vous faire une bonne séance. Quand je parle, non, c'est bon. Ah, c'est bon, ça va. Quand je parlais avant, ça faisait un écho. Oui, allez vous prendre une bonne séance de téléprospection si vous êtes timide et ça va bien se passer.
Ça va bien se passer, voilà.
Et, et,
ça m'a beaucoup aidé cet aspect-là après, tu vois,
Et au moment du coup de choisir ce que tu allais faire, donc tu t'es dit OK, je vais écouter papa, je vais faire une école d'ingé. Comment ça s'est passé cette période-là?
Alors ouais, j'étais en terminale, donc les études continuent à bien se passer. Donc tu vois, à un moment donné, t'as ce qu'on appelait à l'époque la voie royale, mais c'est vrai, c'est un peu ça. C'est-à-dire que finalement, d'année après année, la question de l'orientation se pose pas. Bon, je sais que c'est loin d'être le cas pour tout le monde, mais voilà. Et tu te retrouves en terminale, et t'es aussi bonne en maths qu'en physique, qu'en français, qu'en machin. Et là, déjà, tu te dis, la voie maman HEC ou la voie papa école d'ingénieur. Déjà, ça va être compliqué à gérer.
Est-ce que ta maman, elle avait fait HEC?
HEC jeune fille à l'époque, parce que c'était encore séparé entre
HEC. Hommes et femmes. D'accord.
Un mot. Et là, tu fais, alors, je fais quoi? Donc, tu discutes avec ta prof de maths, qui t'explique encore une fois que, ouais, mais en fait, HEC, c'est bien, mais tu pourras faire HEC après avoir fait une école d'ingénieur, l'inverse n'étant pas vrai. Donc, recule encore le moment de faire ton choix. Enfin, bref, en gros, ne fais pas de choix, va vers une école d'ingénieur et tu verras plus tard où tu iras. Bon. Je continue encore à repousser l'obstacle et encore la facilité, entre guillemets, parce que ça a loin d'être facile, de dire, je pars pour deux ou trois années de prépa ingénieur. Avec quand même dans l'idée de rentrer dans une école de BTP pour faire ce fameux ingénieur dans le domaine de la construction pour remplir derrière. Bon, l'histoire des grandes écoles en France, c'est que tu passes un concours qui ouvre 20 écoles en même temps et que le classement fait que tu atterris dans l'école dans laquelle tu atterris. Voilà. Donc, tout l'été des concours, j'ai guetté les écoles et puis celle que je voulais, je ne l'ai pas eue. Bon.
C'était quoi ce que tu voulais?
Moi, je voulais aller à Centrale Paris parce que c'était l'élite du truc. Voilà, je me suis dit, ça serait chouette. Et puis, dans le même concours, il y avait Supélec, donc j'atterris à Supélec. Tu sais, c'est l'histoire de la vie, mais bon. Mais en fait, quand tu n'as pas trop d'idées préconçues et que tu te dis, pourquoi pas, puis on verra bien après, je me laissais vraiment porter par le truc. Quoi. Du reste, c'est un peu l'histoire de mes 10 premières années de professionnel aussi. Tu te laisses porter par le truc, puis tu vois bien où t'as.
Comment tu l'as vécu d'ailleurs, le fait que tu n'aies pas l'école que tu voulais?
C'était un peu dur parce que tu passes tout l'été. Alors, je vais passer pour une vraie vieille. À l'époque, tu passes tout l'été sur le Minitel. Internet n'existait pas encore, en tout cas pas à l'échelle. Et donc, sur le Minitel, à regarder ton classement tous les jours, tu sais, tu fais… Et puis, ça, au bout d'une minute de connexion, tu as droit au bidule. Non, c'est assez rigolo, mais à part ça, non, ça a été assez dur. Ça a été assez dur, d'autant qu'à l'époque, j'avais déjà rencontré mon mari, parce que j'ai rencontré mon mari en prépa, que personne ne fait, mais voilà.
Pourquoi pas toi?
Pourquoi pas moi, voilà. Et lui, il savait déjà où il allait, et moi, j'étais là. Bon, alors, à un moment, il va me cracher le morceau. Et jusqu'à quasiment la dernière minute, j'ai espéré, et puis non, la liste d'attente n'est pas remontée jusqu'à moi. Bon, c'était pas très grave. Après, tout le monde m'a dit, non, mais Supélec, c'est une super école. Et ouais. C'est vrai, il n'y a pas de…
Clairement.
Pas de souci par rapport à ça, il y a juste que ça débouchait pas sur les métiers que j'avais envisagé au départ. Mais je ne sais pas si ça m'est vraiment si gêné que ça, parce qu'en fait, quand tu prépares finalement, tu te prépares pendant 2 ans à cette idée que tu auras ce que tu auras et tu feras la carrière que tu as envie de faire avec ça. Quoi. Enfin, si finalement ça t'ouvre des portes, bon, malgré tout, ça fermait quand même le BTP. Alors, avec Supélec, on va quand même pas forcément travailler chez Bouygues pour faire des trucs. J'aurais pu tenter, mais je m'en suis pas sentie capable. Je me suis pas permis. Bref, je fais mes études Supélec, classique. Je sors de là avec mon diplôme. Et puis, finalement, avec le temps, je m'étais quand même pas mal plu dans le secteur, si tu veux. Et je me dis, finalement, j'aime bien les trucs un peu innovants. Alors, j'avais toujours aimé un peu les trucs. Et donc, je postule à différentes boîtes, dont la boîte où j'ai atterri, qui est devenue le groupe Airbus depuis, alors avec 25 000 changements de nom dont je vous ai parlé le nom, et dans laquelle j'ai fait 15 ans de carrière, quand même. Voilà, donc j'ai atterri en tant que développeur. Alors, je faisais de l'informatique, du coup, mais ça créait quand même des trucs, quoi. Et j'avais quand même atterri dans un département où on créait des nouvelles choses, on était un peu innovants, donc on travaillait pour la défense et on faisait notamment des trucs pour les sonars, des sous-marins et des bateaux. Donc, rien à voir avec le bâtiment. Donc, mais tu sais, c'est... Voilà, tu te laisses... Enfin, moi, en tout cas, je me suis laissée porter. Alors, j'ai quand même fait le choix de pas aller vers ce qui payait le mieux, c'était la finance et ces trucs-là. Parce que alors là, je me suis dit, non, moi, aller bosser pour la banque, je n'aurais vraiment pas l'intérêt. J'ai pas mal de copains qui l'ont fait. Ils sont restés 6 mois, ils en sont repartis. On créait quand même des trucs. Et c'est ça qui me plaisait. Et on était dans une petite équipe assez innovante. Voilà, j'étais la seule femme.
Et puis à Supélec, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. Mais c'est pas une grosse.
Voilà, c'était pas énorme, mais j'avais quand même une bonne bande de copines. Mais là, dans l'équipe, j'étais la seule femme. Et en fait, c'est un peu l'histoire de ma première partie de carrière. C'est que ma première partie de carrière, j'ai été souvent la seule femme. Ou en tout cas, ou alors l'autre femme, c'était la DRH, la responsable de la com, ou l'assistante de direction, ou l'assistante du département. Bon, j'en ai quand même croisé d'autres et je leur fais coucou parce que soit elles m'ont aidé, soit je les ai aidées à ce qu'on sorte un peu du lot. Mais n'empêche, on n'était pas nombreuses. Donc, en fait, ça va expliquer aussi pourquoi maintenant, en fait, je ne travaille qu'avec des femmes. Quand je travaille qu'avec des hommes, donc, c'est rigolo. Et quand je regarde ça de loin, je me dis, bon, bah, ok, moitié de vie avec des hommes et moitié qu'avec des femmes. Bon, l'équité est là. Et donc, difficile de se faire sa place et en même temps, j'avais été recrutée parce que je pense que je convenais au poste, donc on y va. Donc je fais une première partie de carrière où je grimpe gentiment de développeur. Je passe très vite à chef de projet parce que moi, le développement informatique, j'étais nulle. Il faut quand même se le dire, je faisais pas des trucs bien. Par contre, j'étais bonne à manager, à gérer, à structurer, à organiser. Et puis au bout d'un moment, je change un peu de département. Bon, c'est le hasard de la vie. En fait, tous les 2 ans, je changeais de poste. Parce que le projet s'arrêtait, parce qu'on me proposait autre chose. Donc, c'était sympa parce que je me laissais un peu porter par le truc. Et puis, ça grimpait gentiment son petit bonhomme de chemin. Et puis, fini par atterrir sur un énorme projet, 150 personnes, énorme projet logiciel. Et là, je découvre que finalement, la relation client, parce que je me retrouve en contact du client à essayer de comprendre ce qu'il veut qu'on fasse et aller expliquer aux développeurs informatiques ce qu'il faut faire. Tu vois. Donc, j'essaye de me mettre à la place du client et d'aller expliquer aux autres comment faire. Donc, je commence à développer un peu ce besoin d'aller mettre à la place des gens, de faire émerger leurs rêves ou ce qu'ils ont envie de faire, et puis de les aider à faire après derrière. Ça va beaucoup me servir et ça me sert tous les jours. Et ça me plaît beaucoup. Et tout le monde me dit, ah, mais t'es génial dans ce rôle-là, parce que vraiment, tu fais bien la transition entre les deux, c'est super. Et bon, j'arrêtais du coup de développer là où j'étais nulle, et en même temps, et du coup, le fait d'être de plus être du tout timide vis-à-vis des clients, c'était génial. Alors, il se trouve qu'entre-temps, je fais 2 enfants, avec un peu de difficulté, il faut quand même le dire, puisque je fais quand même 4 grossesses pour 2 enfants, donc c'est un peu compliqué. Je remets en cause un certain nombre de choses, notamment je perds mon père juste avant la naissance de, enfin, juste avant de concevoir ma fille, mon deuxième enfant. Donc je remets en place pas mal de choses, mais je continue à être dans ce mood-là où je me dis ouais, mais bon, c'est ta carrière, vas-y, avance. Puis tu sais, dans ces grands groupes, on te bourre un peu le mou quand même, il faut quand même se le dire. C'est-à-dire que on te dit que t'as ta carrière devant toi, on te met dans des formations de management, de machin, de trucs qui te font rêver, et puis zou, tu continues à monter, quoi. Et puis arrive à un moment où tu continues à monter, puis tu finis par découvrir que il y a une réorganisation qui arrive par là. Et puis là, tout d'un coup, tu vois, donc parce que il y avait un projet qui s'était pas bien passé, donc il fallait tout changer pour que ça se passe mieux, soi-disant. Et puis là, tout d'un coup, tu te retrouves un jour en réunion plénière, donc on est à peu près en 2006, voilà, j'avais 10 ans de carrière. Tu te retrouves en réunion plénière avec 50 personnes, dont 10 de ton équipe. Donc j'avais 30 ans, j'avais déjà une équipe de 12 ou 13 personnes, je sais plus, dont les 3/4 avaient facilement 10 ans de plus que moi. Et tu te retrouves en réunion d'équipe, et là, tout d'un coup, tu vois l'organigramme de la nouvelle organisation, ta case, et TBD, qui veut dire, dans le jargon des grands groupes, to be defined, c'est-à-dire, c'est pas toi. Donc, personne t'avait prévenu.
Ah, c'est élégant, ça.
Voilà, c'était élégant. Et là, tu fais, ah ouais, en fait, ça fait 2 ans que je rame pour essayer que ce projet reste à peu près à flot. Et là, personne n'est venu me voir à l'avance pour me prévenir que devant tout le monde, on allait t'annoncer que ta case était vide. D'accord. Alors, autant te dire que ça a été très dur. Moi, je suis quelqu'un de très émotif. Donc, je suis partie de la salle. Voilà. J'ai atterri aux toilettes juste pour lâcher les vannes, comme j'appelle ça. Je suis revenue dans mon bureau, j'ai vu toute mon équipe défiler. Non, mais Christine, mais c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça, il n'y a que toi qui peux occuper ce poste-là, de toute façon. Et alors, ça a été les mois les plus horribles de ma vie, je crois. C'est-à-dire que pendant 2 ou 3 mois, on a essayé de me mettre dans une autre case dans laquelle je ne voulais pas aller. C'est-à-dire, en fait, on voulait me mettre en tant que chef d'équipe de développement logiciel, un truc où je savais que je n'étais pas bonne. Quoi. Donc, à un moment, et par contre, on essayait de mettre quelqu'un d'autre à ma place, alors que je connaissais par cœur le périmètre.
Et tu sais pourquoi ils ont voulu…
C'est politique, tu sais. En fait, je découvrais qu'au bout de 10 ans de carrière, dans ces grands groupes, ça devient plus politique qu'un choix de compétences. Et je l'ai découvert à mes dépens et en fait, ça a été le révélateur des années suivantes où c'était devenu très, très politique. Et moi, je ne suis pas politique.
Et le fait, est-ce que tu penses que le fait d'avoir été maman, ça a eu un impact aussi?
Pas forcément sur cet aspect-là. Non, pas forcément sur cet aspect-là. Ça a eu plus des impacts financiers ou ce genre de choses. T'en parlais juste après. Mais oui… Là, pour le coup, pas trop, mais plus parce que j'étais déjà le vilain petit canard qui osait dire les trucs. Et comme j'étais pas politique, quand ça allait pas, je le disais, quoi. Et sauf que j'en quittais le monde à dire que ça allait pas et qu'il fallait faire ci et ça. Mais comme je suis quelqu'un qui voit assez clairement les étapes par lesquelles il faut passer pour que ça marche, ou en tout cas, selon moi, après, j'ai pas toujours la science infuse, mais… ça énervait un peu parce que j'osais dire ce qu'il fallait faire, mais évidemment, politiquement, c'est pas toujours ce qu'on peut se permettre de faire, ce que je comprends, mais à l'époque, je l'avais pas forcément compris comme ça. Et alors, c'est assez marrant parce que dans mon équipe, donc j'avais, je te dis, les 3/4 de mon équipe qui avait au moins 10 ans de plus que moi, qui du reste avait au moins 1 ou 2 grades de plus que moi aussi dans la hiérarchie, mais c'est pas grave, j'étais pas censée les encadrer, mais je les encadrais quand même. C'est-à-dire que normalement, j'aurais dû avoir les promotions qui vont bien pour les encadrer, mais bon. Voilà, c'est la vie. Et notamment un ancien lieutenant-colonel à la retraite, puisque je travaillais pour la défense, un gars de 57 balais, donc moi j'en avais 30 à l'époque hein, quand même, ancien lieutenant-colonel, donc tu vois, qui avait l'habitude de gérer ses… et qui avait décrété que c'était pas possible et que c'était forcément moi qui devais garder ce job. Avec 2-3 gars, ils sont montés au créneau, mais ils nous ont pollué la vie des chefs en disant « Non, mais franchement, là, vous déconnez complètement ». Et bref, 3 mois après, j'ai gardé le job. Donc, ils m'ont remis à ma place. Bon. Sauf que ça avait laissé des traces, comme tu peux imaginer. C'est-à-dire que 3 mois dans un no man's land, moi, ça ne s'est pas super bien passé. 6 mois après, je demandais à passer au 4/5e. C'est-à-dire que j'ai fait, alors là, les gars, ça ne va pas le faire longtemps. Moi, j'ai besoin de prendre l'air, là. Donc, je suis passée au 4/5e en me disant, en fait, je suis trop au fond du trou, je prends trop de poids à cœur, il faut que je me dégage du temps pour m'aérer. Alors, c'était aussi parce que mes enfants avaient un peu grandi, qu'ils commençaient à avoir des activités, que ça commençait à devenir un petit peu l'enfer à gérer, même si j'avais une nounou à la maison, c'était un peu compliqué de tout gérer. Et je pense que c'est avant tout pour prendre de l'air, hein. Les choses telles qu'elles sont. Mais ça a cassé vraiment un truc.
Ils l'ont accueilli comment quand tu as demandé un 4/5e ?
Au boulot ?
Ouais.
Écoute, assez bien, parce que en fait, j'avais eu quand même le mérite de préparer le fait d'avoir une adjointe qui était là le mercredi et qui pouvait assurer le truc. Donc, plutôt assez bien. Enfin, en tout cas, ça a été accepté assez.
Ça n'a pas été un sujet.
Ouais. Ça n'a pas été un gros sujet. C'est devenu un sujet après, mais quand mes enfants ont grandi et que là, on a commencé à me dire « Non, mais tu pourras peut-être revenir à ton plan, quoi. » Mais pas à ce moment-là, non. Puis, ils avaient vu que j'en avais quand même bien bavé. Donc, voilà. Donc, je continue à avancer, à faire mon petit bonhomme de chemin avec des postes de plus en plus politiques. Enfin, c'est assez rigolo. Mais bien apprécié parce que du coup, ce petit côté chamboule un peu tout et je rue un peu dans les brancards. Et ça leur plaisait bien, mais jusqu'à un certain point, quoi. Et puis, à un moment, mes postes sont devenus que politiques. C'est-à-dire qu'il fallait que faire des présentations. Je passais mes journées à faire des espèces de présentations où c'était plus important de montrer, de voir la forme de ce que je présentais que le fond de ce que je présentais. Et puis, un jour, j'ai eu un déclic, c'est que J'avais tout préparé et mon chef me dit « Non, mais attends, là, la réunion, je suis désolée, c'est moi qui vais prendre tes slides. » Et je vais aller
présenter. Ah, j'adore.
Là, je ne peux pas me permettre de te
faire. Attends, je t'entends plus.
Ah, tu m'entends ?
Voilà, c'est bon.
Et je lui dis « Mais je peux peut-être venir avec toi pour au moins être là en backup parce que c'est quand même mon sujet. » Il me dit « Non, 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 mais tu comprends, un tel, les femmes, il n'aime pas trop, donc non. » Et donc, j'avais tout préparé le sujet. Il a pris mes slides, il allait les présenter. Il s'est pris un râteau, mais j'étais pas là pour assurer le truc. Et là, je me suis dit, non, on est vraiment… Donc, tu sais, juste avant de démarrer, on parlait des livres de Raphaël Giordano. On était dans la burnerie la plus totale. Et sauf qu'à l'époque, j'avais pas mis ce nom-là devant. Donc, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à lire le livre sur le lion…
Le bazar du zèbre à poids. C'est le dernier.
Je crois qu'il en parlait déjà dans le lion. Et voilà. Donc, ça a été un peu le déclic. Je me suis dit, bon… Et à ce moment-là, en fait, j'étais dans une formation, ce qu'on appelle haut potentiel. Alors, ça n'a rien à voir avec les hauts potentiels intellectuels là, qu'on voit à la télé en ce moment. C'est, vous êtes, soi-disant, vous avez du potentiel pour progresser dans la hiérarchie de l'entreprise. Et bon, en plus, à l'époque, en femme, j'étais doublement haut potentiel parce qu'il fallait essayer d'avoir plus de femmes au poste dirigeant. Et donc, je fais une super formation. Alors ça, ces grands groupes, ils sont géniaux parce qu'ils ont vraiment des formations de développement personnel. Mais alors vraiment, c'est un truc, ça te fout une claque. Donc, 2009, je fais cette formation-là. Donc, c'était 4 fois une semaine en immersion totale, un truc vraiment de dingue, avec des intervenants, mais de super qualité, où tu sors de là, mais t'as les frissons tellement t'as appris de trucs sur toi, quoi. Et alors, je me prends une claque, mais monumentale, un matin où on fait… Alors, ça s'appelle du co-coaching ou du co… je me prends un gars de la formation qui est devenu un ami depuis, qui me dit… Enfin, qui me donne un feedback sur moi-même et qui me dit « Tu sais, Christine, avec toi, c'est génial. Un chef qui te file une mission, tu la prends, mais que ce soit pour toi, pour quelqu'un d'autre, tu l'as. Porte à bout de bras et t'es un vrai bulldozer et on sait qu'avec toi, quoi qu'il arrive, tu iras au bout. Mais quoi qu'il arrive, même si tu dois y laisser ta peau, quoi. » Et là, je le regarde et je fais « Ah ouais, je ne m'étais jamais vue comme ça. » Et je me suis dit « Et le pire, ça a été quoi qu'il arrive et même si tu dois y laisser ta peau. » Et là, je me suis dit « Ouais, bah, en fait, c'est un petit peu ce que je vis depuis quelques temps. » C'est que je suis vraiment en mal-être et je ne sais pas pourquoi. Et en fait, c'est juste parce que on m'avait filé des missions qui étaient « quoi qu'il arrive, et même si tu dois y laisser ta peau ». Et la dernière était tombée pendant cette formation, c'est-à-dire un manager de département, donc gérant plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a un accident de moto. Et on cherche un intérimaire pour gérer le département pendant ce temps-là. Et évidemment, celle qui tombe à ce moment-là, c'est Bibi. Donc, Christine, on dit, Christine, est-ce que tu pourrais assurer l'intérim du jour au lendemain? Le gars est à l'hosto, à moitié dans le coma, donc, enfin, en tout cas, Mathieu est hospitalisé, donc, pas joignable sur le moment, et vas-y, récupère son département et vas-y, quoi. J'ai pris le truc, hein, mais je l'ai pris 3 mois, et au bout de 3 mois, le gars est revenu à temps partiel. Dieu merci, au final, c'était pas si grave que ça. Je suis dit, mais je te rends les clés, là, parce que moi, ce truc-là, j'en veux pas. Et c'est vrai que ça a été un vrai déclic, cette formation, parce que sortie de là, je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible.
Tu ne peux et ton pas corps, faire. Comment il te parlait?
En fait, cet été-là, mon corps a justement parlé. Alors, j'ai fait une espèce de truc très étrange, une maladie des yeux que même à l'hôpital parisien, ils ont eu du mal à identifier pour savoir ce que j'avais. Un espèce de truc infâme que j'ai tenu 3 mois avec des tas de traitements avant qu'on finisse par découvrir qu'il suffisait d'aller chez l'ostéopathe pour me débloquer la sphère de la tête qui s'était complètement coincée. Je me souviens, pour l'une des premières fois de ma vie chez un ostéopathe, il me dit « Alors, Madame Charles, c'est simple, vous avez le casque. » C'est-à-dire qu'en fait, j'avais complètement mis ma boîte crânienne vers l'avant pour complètement me protéger le cerveau et j'avais tout bloqué, toute la circulation des fluides au niveau des yeux, du cerveau, des machins. Je ne connais rien, mais je peux dire que je suis sortie de là, j'allais beaucoup mieux. Mais comme par hasard, j'ai réglé mon problème. Et donc, du coup, je sors de cette formation, de cet épisode voilà, où mon corps avait hurlé que stop, ça commence à me faire. Et j'avais pris, ces formations sont géniales parce que devant le, tu parles devant tout un public à la fin, c'est-à-dire que devant 50 personnes, tu prends un engagement personnel de transformation de ta vie, ta carrière par rapport à ça. Et moi, j'ai pris l'engagement de dire, je dois rééquilibrer ma vie personnelle et pro. Et c'est pas que en passant au 4-5e que ça n'a pas réglé le problème, donc faut que je fasse autre chose. Et je dois réfléchir à ce que je veux faire après parce que décidément, j'arrive pas à me projeter sur la suite. Et donc, je prends l'engagement de faire un bilan de compétences. Ok, donc ça faisait 13 ans que je bossais, donc c'était pas non plus complètement anormal. Et en fait, quand tu le prends devant tout le groupe, après, tu as quand même tout le groupe qui te tanne par WhatsApp et on te dit « Alors, il en est où ce bilan de compétences ?» Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas reculer, quoi. J'ai fini par faire ce bilan de compétences en 2009. Et pour la faire courte, ça a été révélateur et pas révélateur. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ça a dit qu'il fallait que je change de, un peu de métier, d'environnement. Mais j'ai pas su lire les messages qu'il y avait dedans.
Et est-ce que t'en as parlé à ton employeur du fait que tu faisais un bilan de compétences?
Ouais. J'en ai parlé à mon employeur, j'ai même fait une récite à ma RH et à mon chef. Parce que du coup, j'ai changé complètement de département, d'activité, etc.
C'est l'avantage des grands groupes, c'est qu'au moins, si tu dis à ton boss, je fais un bilan de compétences quand t'es dans une start-up, c'est un peu plus potentiellement compliqué pour lui. Mais là, dans ce genre de boîte, c'est pas forcément un...
Il l'a pas bien pris, hein, parce qu'il a fait tout pour que je reste après, mais y compris des coups bas dans le dos pour me saper ma capacité à aller postuler à tel ou tel job en interne, mais bon, j'ai pu le faire et j'ai pu restituer. Et en fait, ce qui est marrant de ce bilan de compétences, c'est que je le relis encore de temps en temps. C'est mon ancrage. Et c'est mon ancrage pour pas oublier que j'ai pas su lire à l'époque. On était en 2009 et je rappelle que Rêve à soi, je l'ai créé en 2016, donc 7 ans après. 7 ans, et j'insiste bien, je pense que s'il y a quelque chose que les gens doivent entendre dans mon message, c'est n'attendez pas 7 ans, pitié, apprenez à lire, quoi. Mais même moi, je savais pas lire. Dans ce bilan de compétences, il était clairement écrit que j'étais faite pour développer les compétences, que j'étais faite pour le domaine artistique et pour l'enseignement. C'est-à-dire que tu sais, tu as des espèces de plein de tests psychologiques dans tous les sens. Et dans mon bilan, il y a 3 pics, quoi. Il y a vraiment transfert de compétences, enseignement et éléments artistiques. Et là, tu sais. Et en fait, la fille était bien, mais je pense qu'elle a su entendre que j'étais pas prête. Mais du coup, elle a pas suffisamment quand même insisté pour que je creuse ce point-là. Et c'est là où je regrette un peu, si tu veux. Donc. Il sort de mon bilan de compétences ça, mais en fait, ça sort pas. C'est-à-dire qu'en fait, ok, mais ça reste encore dans un placard. Donc ce côté-là dans un placard. Et même le côté développement de compétences, parce que on était aussi sur des recherches au niveau RH, d'aller faire plutôt des métiers RH de développement de compétences, parce que c'est vrai que dans mes équipes, ressortait toujours, à chaque fois que j'avais une équipe, le fait que j'essayais de les faire grandir. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours rêvé de trouver dans mon équipe quelqu'un qui me remplace. Je suis l'ovni qui a juste envie de trouver la personne. Moi, à chaque fois que j'embauchais quelqu'un, c'était toujours dans l'idée de « est-ce que cette personne-là pourrait tenir mon job à ma place un jour ?» Le truc que jamais aucun manager imagine dans les grands groupes. Quoi. Au contraire, tu as plutôt peur qu'on quitte ton job. Quoi. Et non, moi, c'était plutôt l'inverse. Donc, j'ai toujours été dans cette idée de faire grandir les gens. Alors, de préférence, en plus, la gente féminine. En plus, quand je trouvais une fille, dans la dernière équipe, j'avais une fille géniale et que je pouvais l'aider à grandir, c'était encore mieux pour moi. Je trouvais que ça contribuait à la mixité dans ces environnements-là. Bref, j'écoute pas le message de mon bilan de compétences. Je change quand même de manager d'environnement. Je quitte la défense. Alors, je travaillais pour la défense depuis plusieurs années et je me trouve un job un peu dans un mode start-up interne, si tu veux. D'ailleurs, on démarrait une toute nouvelle activité. Donc, pour ceux qui connaissent maintenant, c'est le top de l'activité. Ça s'appelait la cybersécurité, tu vois. Alors, un truc, voilà. Sauf que dans les grands groupes, à l'époque, c'était une niche, quoi. Un truc, bon. Et on démarre une espèce de start-up, mais dans le grand groupe. Avec un manager génial, hyper paternaliste, enfin, vraiment... Limite, le soir on allait dîner chez lui, enfin si tu veux, c'était une super ambiance, mais une toute petite équipe. J'ai adoré cette ambiance start-up, et on le dirait vraiment comme une start-up, quoi. C'était super sympa, on faisait des produits géniaux, on allait démarcher des clients, mais tu dis, mais comment on a pu aller démarcher des clients? On prenait des vestes, pas possible, mais on y allait. Et en fait, c'est vrai que j'ai, même humainement, c'était une super aventure. Ce qui se passe, c'est que les startups dans les grands groupes, comme ça, quand ça commence à marcher, eh ben, en fait, tu vois débouler tous les vieux dinosaures qui se disent, il y a un truc qui marche, il y a des jobs super intéressants à apprendre, je vais aller mettre la main dessus. Et j'ai vu débouler tous mes anciens managers, mais tout ça, sur l'activité où j'étais. Et donc, les uns après les autres, en se disant, je vais aller mettre la main dessus, sauf qu'ils ont cassé le mode startup, qui évidemment n'a pas résisté au truc. Et là, ça a été horrible parce que là, ça a été carrément du harcèlement moral. C'est-à-dire que maintenant, je peux le dire carrément, et je le dis vraiment avec les mots, même si à l'époque, je n'ai pas osé le dire, c'était du harcèlement moral. C'est-à-dire qu'il y a même un jour, je me suis fait menacer de mort.
Ah ouais.
Un jour, j'ai un manager qui m'a regardé droit dans les yeux en me disant, les gars, si jamais le projet n'est pas à l'heure, vous êtes morts. Je l'ai eu vraiment nickel comme ça. Et c'est un truc, là, je fais. Et je me suis retrouvée un soir aussi, je me souviens, à 21h30, au téléphone, devant ma cuisinière, avec mes gamins et mon fils qui répond à mon mari sur la ligne fixe en disant « Non, mais maman, elle n'a pas commencé à faire à dîner parce que tu comprends, elle est avec son chef depuis 1h30 au téléphone parce que ça n'a pas l'air de bien se passer. » 21h30, tu as des gamins qui ont 10, 12 ans, tu vas te faire…
Non, tout va bien.
Pas, non, il y a un truc qui ne va pas. Et là, en fait, j'ai fait la réaction de l'homme de Cro-Magnon, tu sais, face au mammouth. C'est qu'est-ce qu'on fait ? On se barre. Pourquoi ? Parce que, bah, en fait, il envoie de ta vie. Non,
en fait, non, c'est juste pas possible. Tu sentais à la maison que ça tirait, enfin. Je t'entends plus. Là, c'est bon.
Je pense que c'est mon écran. C'est un enfer. Tu t'entends encore ?
Je t'entends de loin.
Ah, pardon.
Comme ça va, c'est mieux, ouais.
C'est quand c'était un enfer, en fait. C'était un côté… en fait, je n'avais pas de temps. Donc, le peu de temps que j'avais, c'était pour faire un dîner, pour faire machin. Enfin, c'était que de la logistique familiale, quoi. Donc, quand tu n'as pas de temps pour écouter les gens, ça ne se passe pas bien. Ça tiraille dans tous les sens, quoi. Et du reste, ça a été l'un des messages que j'ai reçus de mes enfants après. C'est… Maman, mais qu'est-ce que t'es zen ? Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une vraie maman zen à la maison, tu vois, le truc. Et pourtant, en plus, mes enfants commençaient à être limite début d'ado, tu vois, donc limite, t'es plutôt autonome à ce moment-là, mais non, c'était très, 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 très compliqué. Et du coup, forcément, donc tu te poses des questions, et puis voilà, je décide assez vite. Alors déjà, je décide une chose, c'est-à-dire que j'avais vraiment la couture qui revenait complètement sur le devant de la scène à ce moment-là, mais plus encore une fois comme une aération personnelle. Mais je commençais à envisager d'en faire une activité à côté, plus tu vois, pour aller travailler dans des assos ou des trucs comme ça. Et première respiration, je demande à mon chef, donc mon fameux chef paternaliste, je lui dis « Écoute-moi, j'ai besoin de m'aérer tous les vendredis après-midi ». Mon ancienne prof qui m'avait déjà formée est prête à me prendre en binôme pour faire de la co-animation de cours. Est-ce que je peux prendre un vendredi après-midi sur deux, en plus de mon 4/5e, hein, pour aller apprendre à co-animer des cours de couture et modélisme avec elle? C'était une super opportunité. Et il me dit « Banco, vas-y, de toute façon, tu bosses déjà le soir, le week-end, le machin, donc on ne va même pas le déclarer à la RH. » On a fait ça sous le manteau. Il me dit « Tu poses juste la feuille de congé au cas où il t'arrive un accident, mais personne ne saura, et vas-y. » Et alors, j'ai fait mieux que ça, c'est-à-dire, j'ai même été voir mon comité d'entreprise. Je leur vends le projet de monter un club de couture, donc avec le budget, le machin, le truc. Et je leur dis « Bah oui, mais pour ça, j'ai besoin d'être formée. Est-ce que vous seriez d'accord pour me payer les cours ?» Ils ont dit « Banco ». Bon, sauf que la situation devenait tellement catastrophique que 6 mois après, je fais « Non, mais Banco, ok, mais non, mais quand même ». Donc, quand même, ils m'ont payé ma formation, mais je n'ai jamais fait de cours chez eux parce que je suis partie, j'ai vraiment fui. Et en fait, j'ai fui juste à temps. C'est-à-dire que je sais qu'il y a plein de gens qui fuient après le burn-out. Moi, j'ai fui juste avant. Je me souviens d'un été où j'ai fui et j'avais un grand jardin plein de pissenlits. Et mon jardin, au bout d'une journée, n'avait plus de pissenlits parce que… Et donc du coup, suite à ça, je pars. Et en fait, je pars et plutôt qu'atterrir, je m'enfuis. C'est-à-dire que je fuis dans la première boîte venue. Une boîte de services informatiques, alors va savoir. Voilà. La première qui a accepté de prendre mon CV et qui m'a proposé un job au pied levé, quoi. Mais j'avais besoin de sortir pour rentrer. Donc, je l'ai compris qu'après. Je suis restée 5 semaines dans cette boîte-là. Donc, OK, ouais, super. Mais je ne me suis toujours pas autorisée à rebondir vers autre chose. C'est-à-dire que je suis, du coup, au bout de 5 semaines, j'avais été prise dans une autre boîte où j'avais postulé, mais qui avait juste eu besoin d'un peu plus de temps pour prendre la décision de me prendre. Et donc, j'atterris chez Thales. Alors, une grande innovation, c'est-à-dire qu'Airbus Thales, c'est quand même un peu bonnet blanc et blanc bonnet quand même. Hein. Mais j'atterris quand même dans un secteur civil avec des clients, des grands clients comme EDF, Total, etc. Donc, ça me changeait quand même beaucoup par rapport à ça. Et puis, j'atterris quand même à un job avec à la fois un bon pied dans le réel et quand même une capacité à influer sur une stratégie, sur c'est quoi les produits qu'on veut vendre, etc.
Et tu avais pu garder ton 4-5e à cette époque-là?
Et alors, j'ai fait un truc absolument ahurissant. C'est-à-dire comme quoi, il faut oser dans la vie.
Ah, c'est sûr.
Je suis arrivée devant la DRH de Thales et je lui dis, c'est simple, moi j'étais au 4-5e,
je veux rester. Je t'entends pas.
Oui, moi j'étais au 4-5e et je veux rester au 4-5e. Et je veux rester au 4-5e et je lui dis, et elle me dit, mais pas de problème, de toute façon, avec le salaire que vous demandez, nous, ça nous arrange, parce que payer 4-5e, c'est payer 4-5e, quoi. Et elle me dit, en fait, nous, à la limite, d'un point de vue budgétaire, on est contents, quoi. L'organisation, elle me dit, ça va se faire, hein, y a pas de problème. Et j'avais déjà identifié, en plus, j'ai passé pas mal d'entretiens en amont, j'avais déjà identifié une ou deux personnes qui pourraient faire un bon relais le mercredi pour les urgences. Et donc, je reste au 4-5e alors que mes enfants commencent à être bien ados, quoi, tu vois. Donc, démarre. Et puis, au bout de 6 mois, je vais voir ma RH, je fais, dans mon contrat, il y a marqué que j'ai pas le droit de bosser à côté, mais en fait, je voudrais lancer des clubs de couture. Est-ce que je peux avoir l'autorisation de bosser le mercredi et le samedi pour des clopinettes, pour commencer à donner des cours de couture, parce que c'est quand même un peu ma bulle d'oxygène, quoi. Et c'était même tellement ma bulle d'oxygène que je me souviens d'un exercice que j'avais fait pendant mon bilan de compétences. C'est un exercice où on te fait faire ta courbe d'énergie. Je sais pas si ça te parle. Donc, en fait, tu prends tous les jours de la semaine, tu notes ton niveau d'énergie personnelle.
C'est-à-dire moi, j'appelle ça la météo intérieure.
Tous les matins, tu notes un peu ton niveau d'énergie. C'est-à-dire, tu sais, c'est genre « waouh, j'ai envie d'y aller » ou « bof », si je restais dans mon lit, quoi. Et tous les soirs, tu notes ton niveau d'énergie. Avant d'avoir pensé à ta journée du lendemain et en ayant pensé à ta journée du lendemain. Et là, c'était assez marrant parce que donc je bossais lundi, mardi. Donc ça démarrait dimanche soir, plouf, la courbe d'énergie qui chute à mort en prévision de ce qui t'attend le lundi. qui est quand même assez haute. Et là, le lundi, tu donnes tout, le mardi, tu donnes tout. Évidemment, ton énergie descend au fur et à mesure. Et là, mardi soir, t'arrives au fond du trou. Et mardi soir, tu commences à penser à ton cours de couture du lendemain. Et là, tout d'un coup, tu réalises que ça t'a redonné un coup de boost, quoi. Et en fait, tu donnes ton cours de couture et tu termines ton cours plus haut en énergie que quand tu l'as commencé. Alors que c'est quand même épuisant, hein, d'enseigner, ça puise. Non, tu termines plus haut. Et donc, du coup, forcément, ça t'a redonné du boost. Donc, le jeudi, t'es à fond pour tes équipes, même si l'idée de penser au jeudi t'a redonné un petit coup de mou au moral. Et en fait, j'avais une courbe comme ça, où à chaque cours de couture, rien que le fait d'y penser, ça me faisait monter ma courbe d'énergie, et rien que le fait de donner un cours, ça me redonnait encore. Et je me suis dit, mais il y a quand même un truc, c'est pas possible. Je peux pas me faire bouffer mon énergie par un boulot qui me bouffe 4 jours de mon temps et me retrouver le reste du temps avec un truc, je sais pas, c'est... Voilà. Qui pourrait être mon rebooster d'énergie, mais j'ose pas me le dire, quoi. Bref, il se passe encore 2 ans, nouvelle réorganisation comme ces grands groupes savent encore en faire, nouvelle formation de haut potentiel. C'était un peu un jour sans fin cette affaire. Puis cette nouvelle formation ne m'apportait rien. Voilà, pour le coup, j'avais fait un peu le truc. Le seul truc que ça m'a apporté, c'est ce qu'on appelle un feedback 360. C'est un truc où en fait, tu t'auto-évalues sur un certain nombre de critères managériaux et tu poses les mêmes questions à ton équipe, à des gens qui travaillent avec toi et à ton manager. Et tu te reçois le truc et après, tu as quelqu'un qui te décortique. Et là, tu te prends la baffe du siècle, c'est-à-dire que tu découvres qu'en fait, tu te vois à certains endroits, mais ton chef te voit pas du tout. Mais alors pas du tout aussi efficace que tu te juges l'être et que tes pairs le jugent l'être. Enfin, bref, en fait, ton chef voit pas du tout ce que tu apportes dans le business, quoi. Et là, tu fais, ah ouais. Et là, tu commences à te dire, bah, et ça fait 3 ans que je suis dans le job, je m'ennuie. En fait, faut savoir, tous les 2 ans, je changeais. Donc, au bout de 2 ans, je m'ennuie. Et au bout de 2 ans, je cherchais à trouver quelque chose de nouveau. Et là, tu dis, bon, OK. Donc là, il faut vraiment faire quelque chose de drastique. Mon corps m'a encore envoyé un message cet hiver-là avec cette réorganisation qui remuait beaucoup de choses, etc. J'ai fait une sinusite, il a fallu 4 antibiotiques pour s'en sortir. J'ai été arrêtée 3 semaines. Enfin. Et là, j'ai fait, OK, stop. Et du coup, on va parler de rêve à soi parce que rêve à soi est arrivé à ce moment-là avec cette histoire de couture où je me disais, bon, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose, quitte à ce que ça ne dure que 2 ans dans ta vie. Mais
à partir de quand tu as commencé les cours de couture? Ou tu as commencé à apprendre, toi, à coudre?
À moi, j'ai commencé à prendre des cours de couture, je venais d'avoir mon diplôme du Pélec.
D'accord.
J'ai acheté la meilleure machine qui existait sur le marché, j'ai trouvé des cours, et donc, en 1996, tu vois. Donc là, j'ai des cours de couture et modélisme, enfin, c'était des trucs assez poussés. Et moi, j'ai commencé à en donner les tout premiers en 2012. Voilà, mais ça, c'est étiolé dans le temps, au début, vraiment de manière sérieuse en 2014 et après de manière active en 2016 quand Rêve à soi a été créé. Bref, donc du coup, cet été-là, un gros été de réflexion, j'ai encore mes notes de business plan, de machin.
Là, donc, t'es encore salarié chez Thalès ?
Oui, je suis encore salarié et j'ai même pas encore annoncé à qui que ce soit, quoi que ce soit, j'ai rien fait du tout. Et la seule chose que j'ai fait cet été-là, c'est que j'ai osé commencer à en parler à mon mari. Enfin, voilà, mon mari qui était mon copain de l'époque de prépa. Hein, donc ça fait quand même, on avait quand même plus de 20 ans de vie commune. Et là, je lui dis, j'ai fait tout ça, mais je voudrais faire ça. Qu'est-ce que tu penses? Et je pense que lui avait tellement perçu le mal-être, si tu veux, mais il le vivait tous les jours, qu'il m'a dit, bah ouais, vas-y. Puis je me souviens de l'avoir regardé là, de dire. Comment ça? Bah ouais, vas-y. Oui, vas-y, quoi. Ah d'accord, ok, donc t'as rien d'autre à dire. Bah, oui, pourquoi t'irais pas? Bah, ok, d'accord, c'est gentil. Je m'attendais tellement à ce qu'ils me disent, non, mais attends, t'as pas fait tout ça pour ça, t'as pas fait toutes ces études. Eh ben non, c'était genre, banco, lance-toi. Enfin, si tu sens que ça peut marcher, vas-y. Enfin, en gros, ils me faisaient 10 fois, 20 fois, 100 fois plus confiance que moi, quoi.
Enfin, c'est ce qu'on appelle un ami magique.
Ouais, c'est ça. Et là, tu te dis que je n'avais pas vu cet ami magique à ce moment-là. Et là, j'ai été soufflée. Donc, j'ai vu cet ami magique arriver. Mince. Ça va?
Il ne faut pas que tu bouges, en fait.
Il ne faut vraiment pas que je bouge. et donc, du coup, je commence à faire business plan, réflexion, comment… Voilà. Mais l'idée, c'était d'en faire une activité bonheur, tu vois. Un truc… Je me lève le matin, c'est chouette. Que ça rapporte un petit peu de sous, mais je gagnerai jamais autant que ce que je gagnais avant. Enfin, je me souviens, je te raconterai après mon départ de Thalès, ça a été assez rigolo du reste sur ce plan-là. Et donc je lance ça. Alors, ce qui est génial dans les grands groupes, c'est que par contre, t'es hyper accompagné. C'est-à-dire que Je reviens en septembre. Alors, j'ai encore mes notes de parce qu'à l'époque, je lisais le livre de Maud Simon sur 12 semaines pour changer de vie. Je sais plus comment c'est plus le titre exact. Et donc, je faisais ces exercices. Et donc, en fait, tous les jours, tu dois faire de l'exercice d'écriture automatique. Donc, j'invite les gens qui ne connaissent pas à lire ça. C'est hyper révélateur. Donc, j'ai encore mes notes. Et je me souviens de les avoir relues il y a quelques temps. Et je reviens de vacances, genre 2 septembre, le 3 septembre, j'ai mon écriture automatique qui me dit, j'en peux plus. Ok, d'accord, ça faisait 24 heures que j'avais repris le boulot. Bon, et dans les grands groupes, en fait, tu as des cellules d'accompagnement à ce qu'ils appellent les SEMAGE. Donc, c'est pour inciter les gens à aller créer leur boîte. Donc, c'est une copine qui m'en parle. Toi, je fais, bon, ok, il y a peut-être ça chez moi, je regarde. Et effectivement, il y a ça chez moi. Je me souviens d'avoir appelé mon amie Corinne, parce qu'elle est devenue une vraie amie depuis. Je l'appelle et je lui dis, je suis désolée, alors j'ai un projet d'essaimage, mais alors ça n'a rien à voir avec la technologie Thalès, parce que d'habitude, c'est plutôt pour aller prendre une super idée technique et essayer d'en faire une start-up avec. Moi, je veux créer des cours de couture. Elle me dit, pas de problème. Comment ça, pas de problème? Bah, ouais, bah, c'est un projet comme un autre. Et donc, je la rencontre. Enfin, non, elle m'envoie tous les docs à remplir et tout. Donc, il y avait tout un pinceau à faire. Faut savoir qu'à la clé, il y avait quand même un petit chèque pour m'aider à démarrer. Hein, donc, c'était normal d'avoir. Et je la rencontre sur la base de ce que je lui avais envoyé. Elle me dit, bah, donc à l'époque, on se voyait encore. Elle me dit, bah, Christine, tout va bien. Je lui dis, comment ça, tout va bien? Elle me dit, bah, vous êtes prête, c'est nickel votre projet. Je lui dis, comment ça, c'est nickel, vous n'avez rien à dire? Non, non, on peut y aller. Ah, d'accord. Et donc, en fait, les choses se sont enclenchées, mais ultra vite. C'est-à-dire que je l'ai vu en septembre. Et début novembre, j'annonçais à mon chef que je partais et que donc je demandais. Alors, j'ai demandé un congé création d'entreprise. Parce que, ok, j'aurais pu démissionner, j'aurais peut-être pu négocier un départ, mais j'avais besoin de, intellectuellement de cet élastique.
D'être assurée.
Ouais. Et que bah, financièrement, à la maison, on avait vu qu'on pouvait se permettre que j'ai pas le chômage et que voilà. J'ai demandé ce congé création. Bon, je crois que je savais vite que je reviendrais pas, mais intellectuellement, ça m'a rassurée. Je pense que c'est parce que peut-être t'as pas fait tout ça pour tout lâcher, on sait jamais. Voilà, ce petit côté rassurant, cette petite voix, fais attention, prends soin de toi, etc. Et du coup, bah, en fait, ça s'est passé très vite. Je suis partie en fin février 2016 et Rêvasso a démarré dans la foulée, quoi. Un démarrage un petit peu étrange parce que tu démarres en mars sur une activité qui est quand même très saisonnière parce qu'en fait, c'est quand même un peu rythmé par l'année scolaire, ce que j'ai vite compris après. Et donc, en fait, tu démarres pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça décolle pas. T'attends les appels. Enfin, Mais comme tu as appris à sortir de ta coquille, tu vas démarcher les partenaires, tu commences à aller voir les merceries, les machins, pour te faire connaître. J'ai assez vite trouvé des lieux pour donner des cours. Enfin, voilà, j'organise mon truc. Donc, ça décolle pas, mais ça m'a laissé du coup du temps pour développer. Mais c'est pas ça qui m'a occupé le plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais démarré à Vassois le 1er mars 2016. Et je crois aux alentours du 8 ou 10 mars, je suis appelée par, je suis contactée par un organisme de formation à distance, dont je tairai le nom parce que maintenant on est concurrents, et qui m'appelle et qui donc c'est la responsable pédagogique qui m'appelle, donc qui est plus du tout en activité chez eux du reste depuis, et qui me dit bonjour, on cherche un prof de couture pour animer pour gérer pédagogiquement tous les élèves du secteur mode, donc modélisme, couture. Chez nous, et surtout développer, complètement rénover notre cursus pédagogique. Je dis, bah, ok, d'accord, mais pourquoi moi, quoi, tu vois? Alors, je sais que ton émission s'appelle Pourquoi pas moi, mais moi, c'était vraiment pourquoi moi? Enfin, je démarre, machin. Oh, mais parce qu'en fait, on cherche un mouton à cinq pattes comme vous. Alors, j'ai adoré l'expression mouton à cinq pattes, qui a déjà fait d'autres trucs, un vrai chef de projet. Voilà, moi, j'étais certifiée avec des certifs de chef de projet, a pu savoir qu'en faire. Dans les grands groupes, c'est obligatoire et tout. Et qui a en plus du recul, qui a des connaissances du digital, qui a baigné dans l'informatique et tout. OK. S'ensuit une négo un peu compliquée parce qu'il voulait m'embaucher, en fait. Il voulait que je sois salariée. Moi, je venais de créer ma boîte, donc non, mais jamais de la vie, quoi. Donc, bon, on finit par passer en presta. Bon, là, elle est un peu compliquée parce que la boîte va pas bien. Au final, on fait qu'une presta d'animation pédagogique et pas vraiment de refonte. Enfin, voilà. Ils n'avaient pas forcément les moyens de se payer ça dans leur situation économique. Et j'anime, du coup, en parallèle de mon lancement, bah, j'ai en fait, me tombe dessus une espèce de matelas de sécurité financière que tu t'attends pas à avoir quand tu es à ton compte, quoi. C'est-à-dire le contrat qui fait que tous les mois, il y a un minimum qui tombe et que du coup, tu t'inquiètes plus. Donc, tu fais, OK, bah, en fait, ça fait juste une semaine. Donc, c'est les beaux hasards de la vie. Mais si tu veux, c'est aussi les belles rencontres. C'est-à-dire, c'est aussi se dire, j'ai su les convaincre aussi que j'étais la bonne personne. Et voilà. Et toute la suite de Rêvasso, ça a été que ça. C'est des beaux partenariats avec des belles rencontres que j'ai su susciter et qui me sont un peu tombées dessus. Je sais pas si c'est le hasard. J'ose pas dire que c'est le hasard, mais c'est un peu le truc chouette qui fait que tu te dis que tu as quand même une bonne étoile par rapport à ça, mais que tu n'y es quand même pas non plus pour rien parce que tu as su les susciter, quoi.
Et quand t'as dit chez Thalès, bon, la fameuse Corinne, donc t'as dit bon bah super, vas-y. Mais comment le reste de ton environnement professionnel et amical ont réagi quand t'as dit que tu quittais Thalès pour créer des cours de couture?
Alors j'ai pas annoncé que je disais que j'allais créer des cours de couture. Il faut savoir que je mettais même presque pas mes tenues cousues pour aller au boulot, tellement j'assumais pas ce côté. J'étais vraiment dans un environnement très très masculin, en tout cas dans son approche, même s'il y avait quand même quelques femmes, très très masculin. Je veux dire, tu mettais une petite robe rouge pour aller au boulot, forcément t'avais un petit gars qui te faisait la petite pique, du genre ah t'es mignonne aujourd'hui, ouais bon enfin bon ok j'ai juste mis une robe quoi, tu vois c'est un truc un peu normal ouais. Ils étaient super charmants hein, en soi. Il y avait pas de misogynie marquée ou quoi que ce soit, mais il y avait quand même ce petit côté. Soit j'assumais pas, soit eux n'assumaient pas. Et alors c'est assez marrant parce que j'ai quand même créé la structure avant de partir, puisqu'il fallait que je monte les papiers justement à Thalès avant de partir. Et donc du coup, il y en a quand même un qui a été sur société.com, qui a vu l'objet social de la boîte. Et qui arrive un matin en me disant « Ah, comme ça, tu vas créer des cours de couture !» Et je vais, ah ouais. En fait, il y a quand même un petit malin qui a réussi à savoir. Alors, il y a eu les deux aspects. Il y a ceux qui n'ont rien compris et qui, même encore maintenant, 6 ans après, sept ans après, ont toujours rien compris. Voilà. Et il y a ceux qui ont fait « Oh, waouh !» Et puis, au milieu, il y a eu ceux qui ont dit « Mais tu vas jamais gagner autant !» Ouais, mais en fait, je t'ai pas compris, mais c'est pas le sujet, quoi. Voilà. Le sujet n'était absolument pas une histoire d'argent, c'était vraiment une histoire de me lever le matin. Et depuis 5 ans, et je le dirai jamais assez, moi, quand je me lève le matin, j'ai la patate, quoi. J'ai la patate. Je n'imagine pas de m'inventer un nouveau job parce que celui que j'aime me plaît et que je me le réinvente tous les jours. Et que c'est la première fois de ma vie que j'ai depuis 5 ans le même job sans l'avoir tout en l'ayant. Et que quand il y a un truc qui m'ennuie, bah, je fais en sorte de l'évacuer et d'en m'en créer de me faire une variation sur thème, quoi. Alors que, auparavant, tous les 2 ans, fallait que je change et que tous les 2 ans, au bout de 2-3 mois de boulot, je me levais le matin en me disant, punaise, la suite de la carrière, ça va être compliqué, quand même, hein. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le truc. Et ça, il y a ceux qui l'ont vraiment compris et puis ceux qui, malheureusement, comprendront pas, et c'est pas grave. Et ces gens-là, en fait, bah, malheureusement, je les ai laissés de côté.
Et ces gens-là, c'était gens des personnes aussi de ton univers personnel?
Il y en a eu quelques-uns, ouais, de mon univers personnel. Pas trop. Heureusement, j'en ai quand même beaucoup qui ont suivi et qui ont fait waouh. Et j'ai même des anciens collègues de l'époque où j'ai frôlé le burn-out qui maintenant me disent oh, Christine, mais tu te rends compte du chemin que t'as fait? J'ai encore un pote là que j'ai appelé il n'y a pas longtemps, il me dit mais c'est quand même juste démentiel quoi. Parce que bon, après il voit en plus, depuis il y a eu le livre sur le CAP avec le succès que ça a été, la formation professionnelle, et donc il voit tout ce chemin parcouru, parce que c'est vrai que Rêve à soi, après ça a été que une succession.
Ça allait être ma question d'après. Je sais un petit peu, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire maintenant qu'est-ce, donc c'est parti d'une idée de donner des cours de couture. Aujourd'hui, en effet, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que tu peux nous raconter?
Eh ben en fait, Rêve à soi, c'est beaucoup plus que ça, parce que donc ce fameux contrat dont je te parlais là de sous-traitance s'arrête parce que la boîte pose le bilan et que les repreneurs virent l'équipe pédagogique et décide qu'ils n'ont pas besoin de moi. Bon, c'est le jeu de la sous-traitance, hein, donc je ne le prends pas spécialement mal parce que c'était plus considération économique qu'autre chose. Il se trouve qu'au même moment, là, donc une boîte avec laquelle je bosse encore actuellement, et c'est même un vrai partenariat stratégique, donc ça s'appelle Artesane, qui fait des cours vidéo d'extrêmement bonne qualité et qui les diffuse, cherche un prof référent couture pour développer des cours en vidéo pour préparer au CAP couture, et me propose de prendre en charge ce truc-là.
Toi, tu l'as eu ton CAP couture?
Non, je l'ai pas. Moi, je l'ai en validation des acquis de l'expérience. J'ai justifié lorsque j'ai déposé mon dossier de formatrice d'heures de formation qui valent largement ça, mais j'ai pas le diplôme, et pour je m'en cache pas, mais pourquoi je l'ai pas? Parce que simplement à l'époque où j'ai fait toutes ces formations et ces choses-là en parallèle, hein, de mon travail, j'en ai pas trop parlé, mais globalement il y a eu toute une période où tous les samedis j'étais pas à la maison, Et à l'époque, en fait, moi, je savais pas qu'on pouvait passer le CAP en candidat libre. Ça, voilà, c'était pas connu. Et puis après, bah, en fait, j'avais déjà largement le niveau. Et comme mon dossier de formatrice professionnelle est passé sans ça, je me suis dit, bon, bah, ça veut dire que même valide les acquis de l'expérience sans ça. Et donc, t'as pas besoin en tant que tel. De toute façon, je pense que l'expérience a montré que, voilà. Mais c'est vrai que ça reste un des points où j'incite quand même les personnes à le faire, parce que c'est quand même plus facile que d'avoir à justifier de tas de documents, de machins, de trucs. Voilà, c'est quand même plus simple. En France, c'est plus simple de montrer un diplôme. Voilà, j'aurais été aux États-Unis, au Canada, la question,
c'est pas. Question. Pas.
Mais en France, ça reste le truc. Et donc, je démarre ces cours et j'en profite, si tu veux, pour insuffler toute l'innovation de tout ce que j'avais vu qui n'allait pas dans les préparations antérieures. Je me dis, il y a vraiment moyen de faire un truc à distance, mais un vrai truc de e-learning à distance, comme moi j'avais suivi déjà des cours de e-learning dans des tas de trucs différents, quoi. Et je voyais pas pourquoi la couture, on pourrait pas faire la même chose. Donc, je démarre ce partenariat avec Artesan. Ça se passe super bien. On fait l'un des meilleurs lancements de leur cours, alors qu'il s'agissait barbatif sur la préparation du CAP. On fait le meilleur lancement de cours qu'ils aient jamais vu de leur vie. Anne-Sara, la patronne d'Artesan, n'en revenait pas. Elle dit, bon, bah, super, ok. Et donc, on en a fait 7 comme ça, dans la foulée. Et suite à ça, bah, en fait, Artesan discutait déjà avec les éditions Erol pour rédiger des bouquins sur différents sujets, couture, broderie, comme les imprimés, sur différents sujets d'art du film. Et à l'été, alors c'était quand ça, 2018, je crois, donc la patronne d'Artesan m'embarque dans un rendez-vous chez Erol qui voulait lancer, alors ça nous fait un petit fascicule d'exercice de couture pour préparer le CAP. Petit fascicule d'exercice de couture. J'insiste bien sur les trucs. Et donc, on se rencontre. Tout de suite, je pitch sur ce que j'ai en tête. Enfin, voilà, un truc, je préparais déjà des élèves au CAP, donc je voyais très bien ce qui leur manquait. Et moi-même, pour être passée de ce côté loisir à professionnel, je voyais très bien par quel bout fallait prendre le truc, quoi. Et puis, il y avait ce côté progressif que j'avais déjà fait dans différentes formations. Donc, je voyais aussi la progressivité du cursus. Enfin, j'avais tout en tête, quoi. Et donc, je pitch le truc, mais sans même l'avoir préparé, tu vois.
C'est naturel.
Naturel. Et puis, vraiment, zéro préparation, après. Et donc, le directeur éditorial de ce secteur-là, qui était présent ce jour-là, bon, pour une histoire pas rigolote, c'est que son éditrice, malheureusement, était tombée malade quasiment à ce moment-là. Bah, kiffe complètement le truc, globalement. Enfin, tu sais, c'est genre, dans l'édition, les gens, ils ont du feeling, hein, donc ils sentent si le truc va marcher. Et puis, bah, il me dit, bah, allez-y, démarrez sur un premier chapitre, on verra bien. Donc, je passe mon été à faire le premier chapitre et à cadrer le truc. En fait, je cadre tellement le truc, un fascicule de couture, j'arrive à un truc qui va être un monstre de bouquin, quoi. Donc, je me dis, mais jamais ça va passer. Donc, on leur présente ça à la rentrée et en fait, ils disent « Mais ouais, banco, on y va, quoi. » Et donc, d'un fascicule qui s'annonçait avec quelques exercices, 150 pages, on est passé à un projet alors, initialement qui devait faire 350, qui en fait plus de 400, et à un vrai programme d'apprentissage de la couture. Mais à ce moment-là, tu sais, tu vis tes tripes. Enfin, moi, j'y ai mis tout ce que j'avais envie de faire. Et en même temps, j'y ai vu le support de cours que j'aurais bien aimé pouvoir fournir à mes élèves pour qu'elles préparent vraiment bien. Mais c'est pas que préparer le CAP, c'est aussi apprendre la couture, libérer sa créativité, enfin, dedans. Et en plus, c'était progressif et on se faisait des petits modèles sympas. Enfin, voilà. Et on fait tout ça avec Artesan. Donc, elles apportent le côté créatif, le côté artistique que j'ai un peu moins. Et puis c'est une belle coopération. Ça a été très très rude parce qu'il fallait absolument finir pour la rentrée scolaire, parce que quand tu prépares le CAP, ça se démarre en septembre. Donc on a écrit ça a été une année mais hyper intense, mais on sort à la force du poignet ce bouquin pour le 5 septembre. Mais tu sais toujours pas si ça va marcher. Tu sais, moi c'est mon premier bouquin, donc je découvre le métier de l'édition. Donc, premier tirage, 2500 exemplaires. Il paraît que c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est pas mal déjà. Ouais. Surtout sur des choses un peu niches.
Ouais, ouais. Non, là, c'est vraiment de la niche. Et puis, Voilà. Du coup, on démarre et on lance le livre. Et puis, dès le début, j'ai des podcasts, des trucs en visio de jeunes dames que je connais pas du tout, dont ma copine Caroline, que je salue parce que je sais qu'elle écoutera le podcast, une fille adorable que je connais pas du tout, qui me fait une heure de vidéo sur mon bouquin en disant c'est super, machin, enfin, je sais plus ces mots, mais j'en ai chialé, quoi. J'ai vraiment pleuré, je fais, oh, mais comment c'est possible que quelqu'un trouve que mon bouquin soit si génial que ça, tu vois, je n'en revenais pas. Et en fait, cette histoire, c'est quand même dingue parce que, on est en train de faire l'une des meilleures ventes de livres de couture de, enfin, pas de tous les temps, mais ouais, en un an et demi, on en a vendu 15 000, qui est juste le, je pense qu'il y a des bouquins de couture qui en ont vendu autant en si peu de temps, il y en a sur les doigts d'une main, quoi. Et moi, j'en reviens toujours pas, quoi. On est quand même sur un bouquin de niche qui prépare au CAP, mais du coup, on a touché plein de gens qui préparent pas du tout le CAP, mais qui ont juste envie d'apprendre à coudre. Et je pense que j'ai mis tellement mes tripes de structurer un programme pour que ce soit abordable, progressif et tout, que tout le monde y a trouvé un peu son compte, quoi. Mais on s'y attendait pas. On en est à la 5e ou 6e réimpression, donc à chaque fois. Alors, les rôles, ils sont super. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils sont très mesurés. Enfin, ils prennent pas de risques, parce que, bah, il y a rien de pire que d'envoyer des livres au pillon derrière. Mais du coup, c'est un vrai bonheur parce que à chaque fois, on dit, bon, OK, bah, on a, et tous les mois, alors, j'espère que ça va continuer. Et puis, bon, ça s'arrêtera forcément à un moment. Mais tous les mois, on voit les chiffres de vente. Et puis, tous les mois, ils me disent, bon, bah, ça continue, quoi. Et alors, le pire, ça a été le confinement l'année dernière où bah, forcément, les librairies étaient fermées. Et en fait, évidemment, il y a eu une chute de vente. Et puis, en fait, le truc est parti comme de plus belle, voire même pire derrière, parce que plein de gens s'étaient mis à la couture. Et du coup, voilà, il y a cet engouement-là. Et en parallèle de ça, je développe la formation professionnelle parce que j'étais franchement convaincue. Je voyais plein de dames qui étaient en mal-être complet dans leur métier, donc vraiment, et qui avait trouvé un exutoire dans la couture pour se libérer. Je me souviens d'un été où je fais un stage de modélisme avec 5 personnes, et à l'époque c'était des stages où je pouvais encore garder mes stagiaires à déjeuner, donc on déjeune le midi, dans ce cas-là on papote un peu, voilà, je les laisse parler, tu vois, de leur vie. Et alors c'était horrible parce que sur les 5, il y en avait 3 en burn-out, je le savais pas, hein. Et 2 qui étaient juste en train de se dire, faut que je change de vie, quoi. Donc, sur les 5, il y en avait 5 qui voulaient changer de vie. Et là, tu te prends la glace. Et en fait, les 5, à la fin, elles te disent, ça m'a donné une bulle d'oxygène, mais Christine, tu peux pas savoir. Et donc, tu te dis, bon, je fais pas que ça pour enseigner la couture, ça va bien au-delà de ça. C'est du coaching, c'est aussi transformer la vie des gens, enfin. Et donc, j'avais envie d'aller vraiment plus loin là-dedans. Et donc, j'avais cette idée de faire une formation à distance, mais qui enseigne la couture, mais en ayant cette proximité avec les gens. Et donc, on a lancé ça en parallèle il y a plus de 2 ans maintenant. Là, on termine notre 2e session à grande échelle, je dirais. Et on apporte un bien fou aux gens tout en leur permettant de développer leurs compétences, leur créativité. Et c'est vrai, comme en plus on est des spécialistes de la couture, moi j'ai recruté des profs qui sont des vrais coachs, c'est-à-dire que elles accompagnent aussi nos élèves dans la motivation et tout, et qu'on est spécialiste de ça. Voilà, on s'est fait une petite renommée dans ce côté. C'est pas, on vend pas de la formation pour la formation. Moi, ça m'intéresse pas. J'aurais pu recruter plein de profs pour faire ça. Moi, l'idée, c'est qu'on accompagne nos élèves et sur ce superbe chemin de vie qui est je progresse en couture si j'en ai envie. Et s'il y a au bout du chemin, il y a un nouveau métier, tant mieux. Et si au bout du chemin, il y a juste une activité perso qui me libère ma créativité, me permet de m'aérer, tant mieux. Mais au moins, je suis super fière de ce que j'ai fait à la fin et du parcours. Et voilà, et ça c'est génial parce que là nous on est en train de finir notre année, j'ai des témoignages enfin voilà, qui
ça, c'est magique mine de rien, les témoignages des personnes qui te disent ça, c'est Noël tous les jours, quoi.
C'est ça, c'est Noël tous les jours, et tu dis bon, c'est chouette, je sais pourquoi j'ai changé de vie, et je sais que j'ai trouvé ma place par rapport à ça, et ça c'est vraiment super. Et donc au point que bah on sait que ces gens-là ont envie d'aller au-delà en termes de formation et que du coup avec Artesan on est en train de développer des nouveaux cursus pour proposer d'aller encore au-delà et de libérer encore plus la créativité des gens par rapport à ça. Donc voilà, c'est
génial.
C'est une aventure, on se laisse porter quoi.
C'est quoi pour toi la réussite ?
Alors longtemps, ça a été avoir un bon salaire, un bon métier, un bon machin. Longtemps. Et avoir la reconnaissance des autres. C'est-à-dire que quand avoir ce petit effet waouh quand tu parles de ce que tu fais dans le regard des autres. Et je dis, pourquoi je te dis ça ? Parce que ça reste difficile d'aller à l'encontre de ce réflexe-là. Tu vois, de se dire. Donc, ça reste important pour moi de me dire. Oui, je vis quand même de mon activité. Voilà, c'est pas juste un truc en dilettante. Je suis fière de pouvoir dire maintenant, j'en vis. Voilà. J'en vis. Alors, il y a des moments plus ou moins faciles. Je veux dire, quand on te coupe les cours loisirs parce que t'as plus le droit de faire de cours loisirs, bah, forcément, ton salaire, tu le réduis en conséquence, etc. Mais j'en vis. Mais c'est vrai que moi, maintenant, la réussite, c'est plus de pouvoir me dire tous les matins, waouh, il m'attend une super journée de boulot. Et pouvoir évacuer rapidement les bon il y a toujours 30 ma coach de bilan de compétences me disait à partir du moment où dans une journée il y a 60% de trucs que vraiment vous adorez faire, les 40% autres ils passeront sans problème, et c'est vrai, elle a raison. Donc j'essaie d'évacuer les 40% dès le matin, comme ça c'est fini, et après on fait des trucs sympas qu'on a envie de faire, et c'est maintenant c'est devenu ça, si tu veux, c'est ce côté. Alors, je suis contente de voir que la boîte marche, que je fais vivre des professeurs, que là, pendant toute cette période difficile, j'avais des professeurs qui pouvaient plus donner de cours loisirs pendant plus de 7 mois, elles ont été à l'arrêt, et qu'elles ont quand même vécu grâce au fait qu'elles étaient profs pour la formation professionnelle, et que j'ai pu les aider à surmonter cette période-là aussi pour elles, aussi pour les élèves qu'on a accompagnés pendant cette période qui était compliquée aussi. Donc, ça, c'était important pour moi, mais la réussite, c'est aussi de voir que mes enfants sont voilà, me renvoie un message en disant, maman, écoute, c'est quand même super. Bon, je continue à être pénible certains jours, mais maintenant, ils osent me le dire. Mais quand même, il y a une ambiance à la maison qui est comme tellement différente d'avant que, bon, là,
c'est comment tu célèbres tes réussites?
Comment je célèbre? Alors, nous, on fait toujours un apéro. Il y a toujours, voilà, les apéros à la maison, c'est, on fait des apéros, voilà. On fait il y a un nouveau partenariat chez Rêve à Soi, on fait un apéro. Là, on a trouvé un logement étudiant pour mon fils au fin d'apéro. Ma fille a ce qu'elle voulait à Parcoursup au fin d'apéro.
C'est un bon réflexe.
Il y a toujours une bouteille de champagne au frais et toujours des petits trucs à grignoter. Donc, il y a toujours ce côté-là. Et puis, c'est vrai que après pour Rêve à Soi, là, malheureusement, il y avait les 5 ans de la boîte qui sont tombés en plein confinement. Donc, on n'a pas pu faire grand-chose, mais je rêve de pouvoir faire un truc porte ouverte. On fait venir des gens qui vendent des tissus, on papote, on échange. Enfin, voilà.
Super.
On est dans le partage par rapport à ça.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Christine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ?
Elle serait un peu étonnée. Elle serait un peu étonnée que j'ai osé sortir du cadre. J'étais quelqu'un de très sage. J'étais la petite fille modèle. Alors, allez, voilà, tu vois, c'est... Mon frère était celui qui ruait dans les brancards, mais moi je ruais pas dans les brancards. Je pense qu'elle serait un peu étonnée que j'ai osé sortir du cadre, et en même temps elle se reconnaîtrait dans les activités artistiques, le côté créatif. Voilà, il y avait quand même ce côté-là qui me plaisait beaucoup. Je me souviens que je passais mes week-ends à faire des maquettes à ce côté-là. Et peut-être qu'elle me dirait, Christine, fais attention parce que. N'oublie pas justement que tu as besoin de ce temps personnel toute seule à créer, et ne te fais pas à nouveau happer par ta boîte. C'est-à-dire que là, tu vois, le temps d'écriture du livre, ça a été assez horrible parce que pendant ce temps-là, en fait, j'ai rien cousu pendant 10 mois. Ok, j'ai pondu un super livre, mais pour moi, j'ai rien fait. Et ça m'a énormément manqué, et ça a été très difficile pour ça parce que ça m'a rappelé des moments difficiles de ma carrière où j'avais pas de temps pour moi. Et donc, elle me dirait, le petit gyrophare, là, fais gaffe, t'es en train de retomber dans tes travers de la réussite pour la réussite pour la réussite. Et ok, c'est chouette d'avoir même les copains qui te disent, waouh, livre de couture, on n'aurait jamais, enfin, voilà, c'est génial, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi cet équilibre personnel, Et donc, je m'oblige de temps en temps à me dire… Alors, l'avantage d'être à son compte, c'est que tu peux très bien me dire vendredi matin, bon, alors ce matin, je bosse pas. Voilà. Mais j'ai mis quand même plusieurs mois, voire années, à m'autoriser même en tant que chef d'entreprise à me dire, voilà, c'est ok, c'est vendredi, mais tu bosses pas parce que la veille, tu as bossé, parce que tu n'as pas envie, parce que tu n'es pas dans le mood, quoi. Et c'est… Mais maintenant, j'ose le faire de plus en plus.
Et ça libère.
Ouais, ça libère. Et puis, parce que les activités créatives, c'est souvent d'instinct. Tu as des matins où tu sens que c'est le moment pour aller créer un truc avec ce tissu-là. Tu sais pas pourquoi, mais tu as une idée créative. Tu sais, c'est comme un peintre. Voilà. Il y a des jours ça avec et des jours sans. Créer des vêtements, c'est pareil. Et même si je le fais que pour moi, il y a des jours où tout d'un coup, je vois un tissu, je fais « Alors, avec celui-là, je vais faire ça. » Et je me souviens que dans ma réserve, j'ai ça. Et je pense qu'en mixant les deux, je vais pouvoir faire un truc intéressant. Et voilà. Et donc, cela, il faut savoir pas passer à côté de ces instants de création-là et se dire que la boîte continuera bien à tourner par ailleurs.
C'est clair. Et tout à l'heure, tu nous disais que tu avais une anecdote sur la théorie de la veste que tu voulais partager avec nous.
Bah, c'était justement cet été-là où je me suis obligée à postuler à ce boulot où il fallait répondre au téléphone et relancer les mauvais payeurs au téléphone. Où je m'étais dit déjà moi, à titre perso, quand ils vont m'avoir au téléphone pour postuler à ce job, ils vont bien voir que je suis tellement timide que ça va être compliqué. Et bon, après, c'était un job étudiant, donc je pense qu'ils m'ont pris aussi pour ça. Donc déjà, ils m'ont pris. Et puis après, je me suis dit, mais au bout d'une semaine, ils vont forcément me voyer bouler. Et en fait, non, ça s'est bien passé. L'autre théorie, c'est de se dire aussi, quand j'ai voulu passer formatrice pro, je me suis dit, ok, mais t'as des heures de formation avec des attestations de formation comme le bras, il n'y a pas de problème, mais t'as quand même pas de diplôme. Donc, tu vas aller déposer un dossier à la directe pour demander à être formatrice pro, tu vas forcément te prendre une veste. Et ben non, parce qu'en fait, alors, ok, on a itéré, j'ai renvoyé des documents, enfin, ça a été un peu plus long que si j'avais eu un diplôme, on est bien d'accord. Mais j'ai fini par… Voilà, j'ai fini par y arriver et je pense que personne ne remet en cause le fait que j'ai tout pour faire une très bonne formatrice pro. Moi-même, j'en doutais pas, mais j'avais pas les papiers, tous ces trucs-là pour pouvoir en justifier. Et donc, du coup, comme quoi, faut vraiment oser se dire, je sens le truc, je pense que je peux y aller. Et tu vois, j'écoutais ce podcast l'autre jour, je me disais, j'anticipe peut-être ta question, c'est quoi la suite? J'ai recruté l'été dernier une ancienne candidate d'une émission de télé-réalité en couture qui s'appelait Cousuma à l'époque. Quelques-uns ont peut-être connu, donc, il s'appelle Carmen. Coucou Carmen, si tu nous suis. Et moi, je rêve de démocratiser la couture et qu'elle revienne un peu comme la pâtisserie tous les mercredis soirs à la télé, mais qu'on puisse en apprendre quelque chose. C'est-à-dire que l'émission Cousuma à l'époque, c'était terrible parce qu'en fait, tu regardais une heure de télé de couture et t'apprenais rien. Donc pour moi, c'est pas intéressant. Par contre, je trouve, mon mari fait de la pâtisserie et je trouve que quand il regarde le meilleur pâtissier, il apprend quand même des trucs. Bon, ok, c'est pas que ça, mais il apprend des trucs. Et moi, je rêve qu'on puisse avoir, comme aux États-Unis, une émission, alors peut-être pas en prime time, mais un truc où on apprend de la couture parce qu'il y a quand même, moi, quand j'avais fait mon étude de marché, il y a quand même 25% des femmes qui cousent. 25% des femmes qui cousent.
Ah, moi, je couds.
Elles ont le droit d'apprendre des trucs intéressants pour mieux coudre et pour s'améliorer, quoi. Et pourquoi on n'en ferait pas une émission de télé? Donc voilà, si quelqu'un écoute ce podcast et a envie d'une émission de télé, je suis partante et je trouve que ce serait vraiment chouette qu'on puisse démocratiser à ce point-là. Et je pense qu'il y a un truc à faire. Ouais. Et là, je suis en train de me prendre une veste, hein, parce que quand je lance ça, je suis sûre que ça va.
Ah, mais il faut pâter, c'est ce qu'on disait l'autre jour dans l'émission avec Annabelle Robert. En gros, elle m'a lancé une sorte de défi sur, elle m'a dit, essaie de faire en sorte d'être dans le L. J'écoute, j'y suis déjà, donc je vais essayer une télé. Et entre temps, mon livre, Et si je changeais de métier, ouais, est sorti. Et donc, j'ai envoyé plein de mails sur LinkedIn à des journalistes. Et je vais faire ma première télé en direct dans jours, donc comme quoi il faut tenter.
Ah, c'est super, ouais. Je suis contente pour toi.
C'est sympa. Donc ouais, en fait rien n'est impossible, et puis au pire ce qu'on dit, hein, au pire quoi, au pire on te répond pas. Il y a des gens, j'en ai contacté plein, des gens, des journalistes télé. Il y en a une qui m'a même pas répondu, je crois, qu'a transféré à quelqu'un d'autre de la prod. Mais voilà, de toute façon, il faut essayer. Et puis, si en effet, on ne sait jamais, hein, peut-être que ça donnera une idée à quelqu'un qui nous écoute.
Écoute.
C'est peut-être demain, quand on publiera, peut-être dans un an, mais. La vie est faite d'opportunités. Quand on fait des choix, on dit qu'on a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi ?
C'est quoi mes renoncements ? Je sais pas si c'est un renoncement, mais dans toute ma carrière, j'ai quand même eu régulièrement des équipes avec moi. Que j'ai aidé à grandir et du coup là j'ai fait le choix d'être solo entrepreneur. Alors ça durera peut-être pas, mais pour le moment c'est le cas, et donc du coup d'être toute seule. Et du coup quand t'es toute seule, quand tu te retournes et que t'as un truc pénible à faire, c'est quand même à toi de...
c'est pour toi.
Donc il y a ce petit côté renoncement des grands groupes et de ce confort des grands groupes. Mais il y avait tellement de côtés négatifs à côté que, si tu veux, c'est le côté renoncement-là. Après, le reste, en fait, ce qui est juste dingue, c'est que tout ce que j'ai fait pendant 15 ou 18 ans, tout ce que j'ai appris, me sert tous les jours. Et ça, les gens, ils croient pas, mais c'est dingue. Parce que mon métier d'aujourd'hui, c'est chef de projet quand il faut monter une nouvelle formation, c'est négociatrice quand il faut négocier un nouveau contrat de partenariat. J'ai fait des années de négo dans tous les sens, c'est monter des contrats à moitié juriste quand il faut, être un peu commercial quand il faut vendre une formation à une élève. C'est un mélange de tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment de renoncement professionnel de ce côté-là, à part, je te dis, le côté management d'une équipe. Mais comme moi, je l'ai vécu dans les grands groupes où, en fait, on te fourgue une équipe que tu n'as pas choisie, qui n'est pas forcément adaptée au poste qu'il y a, au job qu'il y a à faire, j'en gardais pas forcément un souvenir ému, on va dire, à part certaines personnes qui étaient vraiment chouettes, hein. Les saluts du reste, mais elles se reconnaîtront. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi quelques personnes qui étaient difficiles à gérer parce que c'était à mon sens pas les bonnes personnes pour les bons postes, mais on te les fourgue, donc tu dois les gérer quand même. Et je pense que si je devais revenir à une équipe, l'avantage c'est que je pourrais vraiment choisir mon équipe un peu comme il y a dans les startups et que je vois chez mon amie Anne-Sara d'Artesan. Oui, forcément tu prends les bonnes personnes pour le bon poste et du coup, ça se passe bien.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser, du coup, durant toutes ces dernières années
Le regard des autres, là, dans le changement. Ça a été très dur pour moi, au début, d'oser assumer ce côté « j'ai tout lâché pour, finalement, que des cours de couture », quoi, je le dis comme ça, quoi. Et que pour préparer un CAP, alors que tu es bardé de diplômes, j'avais été bardé de certifs et de diplômes, et tu gérais des millions d'euros de chiffre d'affaires ou de business à la clé. Tu avais des grosses équipes et donc tu largues, il y a la moitié des gens que tu largues au milieu en disant et pourquoi tu as fait ça, quoi. Donc ça a été dur pour moi parce que le regard des autres est assez important pour moi, il faut le reconnaître. Et donc, ça a été assez dur, mais c'est vrai que comme après, le livre a bien marché, etc., et c'est peut-être pour ça qu'il a bien marché, parce que j'y ai mis mes tripes et que du coup, j'ai voulu montrer que je pouvais le faire, ça m'a permis de repasser cette impression-là. Maintenant, je suis à l'aise avec ça. J'ai passé le cap.
Bravo. C'est quoi les plus grandes peurs que tu as eues au moment de te lancer, du coup ?
Que ça marche pas, tout simplement. Que ça marche pas. Et au bout de 3-4 mois, j'ai été refaire un déjeuner avec mon ancienne équipe, puisque j'étais en congé création d'entreprise, donc j'avais encore un contrat avec Thales. Donc je suis retournée voir l'ancien comité de direction avec lequel je travaillais. Il m'avait invité à un dîner. Et c'était 4 ou 5 mois après. Alors je les adore, hein, ils sont adorables, mais c'est vrai que j'avais dit à mon ancien chef qui est de l'époque, je lui avais dit. Mais en fait, 6 mois après, enfin, ou 5 mois après, vous en êtes exactement sur les mêmes problématiques, au même point. Ils n'avaient pas progressé, si tu veux. Et suite à ce dîner, j'en suis sortie, mais absolument démoralisée. Alors, non pas pour eux, parce que c'est la vie des grands groupes que ça avance à ce rythme-là, mais moi, je me suis dit, mais je ne pourrais jamais revenir, ni dans cette équipe, ni dans ce type de groupe, ni même dans ce type de structure, quoi. C'est juste pas possible. Donc, il faut que ça marche. Parce que sinon, t'es devant un gros no man's land, tu sais pas ce que tu vas faire de la suite de ta vie, quand même. Donc, c'était quand même. Donc, j'avais ce congé de création d'entreprise et cette espèce d'élastique de rappel, mais en fait, je venais de me rendre compte qu'il me servait à rien. C'est-à-dire que, voilà. Donc, il fallait que ça marche. Donc, c'était quand même le gros challenge. Et à ce moment-là, c'était loin d'être gagné, quoi. J'avais encore des cours qui étaient qu'à moitié remplis. C'était encore compliqué, quoi.
Et à quel moment, du coup, dans toute cette expérience, tu t'es dit « pourquoi pas moi ?» Ou tu te le dis encore ?
Je me le dis tous les jours. Tous les jours, quoi. Bah, en fait, depuis qu'il y a eu les premiers succès, à chaque fois qu'il y a une belle rencontre et que, justement, il y a un nouveau challenge, je me dis « allons-y ». Pourquoi les précédents challenges, ils ont marché, donc pourquoi le nouveau, il ne marcherait pas aussi bien que les précédents, enfin, il y a aucune raison. C'est-à-dire que je suis passée d'une étape à me dire mais pourquoi ça marcherait, à maintenant pourquoi ça marcherait pas, en fait, tu vois,
c'est le cerveau changer les paramétrages de son cerveau.
Ouais, alors après tout ne marche pas, hein. on se prend des râteaux, c'est clair, mais en fait j'ai pris cette espèce d'habitude d'avoir toujours non pas qu'un seul chemin de tracé. Et je me souviens, au début, je racontais à un copain qui me coachait un peu dans la création d'entreprise. J'ai dit, mais c'est terrible parce que dans ma tête, j'ai pas un chemin, j'ai une étoile. C'est-à-dire que j'ai 25 chemins autour de moi, là. Et en fait, je savais pas lequel sélectionner. Mais je pense qu'en fait, c'est une vraie force de travailler comme ça. Et si je peux conseiller à vraiment à des chefs d'entreprise de travailler comme ça, c'est vraiment ça. C'est ayez toujours une étoile autour de vous de chemins possibles. Parce que comme ça, s'il y a un plan A qui tourne, vous avez toujours un plan B, un plan C, un plan D. Et puis, il y en a toujours un qui marcherait, quoi. Et en fait, alors c'est assez fatigant parce que du coup, toute la journée, il faut balayer tous ces chemins pour être sûr qu'ils avancent et en sélectionner quand même un de préférence. Mais par contre, du coup, on n'est jamais déçu parce qu'en fait, il y en a toujours un qui avance, quoi.
Après, tu vois, Charlotte, dont je te parlais tout à l'heure, elle disait que son conseil, c'était justement de ne pas s'éparpiller parce qu'en fait, en s'éparpillant, t'as beaucoup plus d'énergie qui est perdue, entre guillemets, et du coup, tu avances moins vite.
Alors, moi, je dis pas forcément qu'il faut creuser tous les chemins, mais il faut juste se les noter. C'est-à-dire que quand il y a une bonne idée, mais évidemment, faut pas aller au fond du truc, parce que je suis d'accord avec toi, tu vas t'éparpiller, c'est sûr, et donc il faut quand même en creuser un. Mais avoir toujours un plan B, un plan C, c'est l'espèce de sécurité du cerveau qui se dit, si jamais le A marche pas, je sais quand même ce que je peux faire de ma vie.
Ouais, c'est noter toutes ces. On en avait parlé avec Émilie Martinet et que je suis en fait, qui était commerciale. Après, elle a fait du marketing et maintenant elle a fait une formation pour être architecte décoratrice d'intérieur. Et elle disait justement, en fait, qu'elle avait plein d'idées. On en parlait aussi avec une autre personne en chemin Cyrielle. Et on se disait finalement la bonne chose, c'est d'avoir un fichier Excel, un bloc-notes, enfin ce que tu veux, une note dans ton téléphone. Avec dès que t'as une idée, tu l'écris. Et puis le jour où en fait t'as un petit coup de down parce qu'en effet ton plan A il a pas marché, mais en fait t'es down, donc en fait tu sais pas, t'es perdu, t'es re dans le brouillard, tu reprends tes notes et bing, c'est reparti, quoi.
C'est ça. Moi je travaille beaucoup par association d'idées avec ces mots clés qu'on décline et qu'on décline. C'était assez rigolo parce que le nom de rêve à soi, je l'ai trouvé comme ça, c'est-à-dire j'ai pris tous les mots clés qui me plaisaient et je les ai associés. Puis à un moment donné, je me suis dit non mais c'est ce nom-là, c'est forcément celui-là. Et donc, en fait, je note toutes mes associations d'idées, mais comme ça vient, quoi. Et c'est un fichier que je réouvre assez régulièrement. Et comme tu dis, quand j'ai un coup de mou, qu'il y a un truc que je sens pas, je marche beaucoup plus au feeling qu'avant. C'est-à-dire que je sais pas l'exprimer, je sais pas si c'est du sixième sens, du feeling, du
pire. La petite voix.
Ouais, la petite voix. Mais j'entends beaucoup plus les messages secondaires, peut-être aussi dans la communication. Et donc, je sens quand le truc est en train de tourner vinaigre, là, et je fais, bon, alors, c'est quoi dans le petit crowbar là, que tu avais, qu'est-ce que tu peux aller piocher comme... Alors, soit juste pour renforcer une idée, soit juste aller changer un tout petit peu, quelquefois carrément faire un virage, hein, ça peut être ça. Mais oui, garder toutes ces idées-là, parce que par contre, en cas de stress, parce que quand on se prend un râteau, c'est quand même un vrai stress, le cerveau, il se met en mode panique et il oublie un peu toutes ces bonnes idées positives qu'il peut avoir. Et c'est là que c'est important de s'y raccrocher, parce que le monde du chef d'entreprise, c'est quand même loin d'être facile. Voilà, j'en décris un côté, ça marche, etc. Mais il y a eu des jours difficiles, hein, donc il faut pas l'oublier et savoir s'accrocher à ça. Et puis, le deuxième conseil, c'est que moi, je me suis fait énormément aider au départ. Et pourtant, j'étais bien armée en termes de, voilà, de capacité, encore une fois, commerciale, juridique. J'avais fait pas mal de tout ça dans ma carrière. Mais c'est vrai que le coaching, c'est essentiel, quoi. Donc, j'avais Corinne, cette fameuse coach de Thalès, qui accompagne les créateurs d'entreprises et qui continue et qui est super fière de tout ce que j'ai fait depuis. Je sais qu'elle était même allée remontrer en interne le livre en disant, vous voyez, quand même, l'air de rien, j'avais bien senti qu'elle ferait quelque chose de pas mal. Et puis, j'ai eu cette amie qui m'a effectivement accompagnée peut-être les deux premières années aussi, pareil, à m'aider à faire un peu le tri entre les bonnes et les mauvaises idées, à trouver aussi mon rythme dans ma manière de structurer mes activités, mes idées, voilà, pas m'éparpiller, mais aussi savoir où aller. Parce que ça peut pas que reposer sur la famille. Et ça, c'est peut-être le truc que moi, j'avais pas forcément bien perçu au départ. Moi, je sais qu'il est arrivé un moment où rêve à soi, ça les saoule à la maison, quoi. C'est devenu le troisième enfant de la maison. Mais clairement, mes ados, il y a certains soirs, bon, maman, ça va, t'es gentille. ça suffit, quoi. Et je les comprends.
Et ton mari?
Un peu moins, mais c'est vrai que... Il y a des soucis que je remets régulièrement sur le tapis. Et globalement, il me dit, bon, bah, arrête tes problèmes, mais c'est bon, tu as déjà entendu le dire, donc ça doit être possible de passer outre, quoi. Tu vois, mais par contre, il est super à l'écoute quand j'ai eu des vraies tuiles. Là, j'en ai eu une ou deux il y a quelques semaines. Bon, rien de bien dramatique, mais des choses qui freinent un peu certains projets. Il a toujours ce petit regard comme à l'époque. L'autre jour, il me dit, mais si tu ne trouves pas quelqu'un avec qui le faire, bah, fais-le toi-même, quoi. En fait, tu as raison, je suis capable de le faire moi-même. En fait, c'est juste que jusqu'à ce moment-là, je cherchais un partenaire pour y aller parce que je trouvais ça plus rapide, plus efficace, plus machin. Mais si je n'arrive pas à trouver de partenaire pour y aller, pourquoi pas moi, quoi. Voilà, pourquoi je ne le ferais pas et pourquoi je ne le dirais pas. Bon, ça veut dire mettre entre parenthèses d'autres trucs parce que bah, le temps, j'ai quand même que 24 heures par jour, compris, quoi. Et donc, il a ce petit côté toujours très terre-à-terre.
Pragmatique.
Avec juste la phrase qui... Tu sais, la phrase qui tue, quoi. J'aurais pu y penser moi-même, mais ça va toujours mieux en le disant.
Voilà. De quoi t'es la plus fière, toi, aujourd'hui?
Ah ben, justement, d'avoir su faire ce changement de vie. D'avoir su le transformer en réussite et de savoir l'apprécier au jour le jour, c'est-à-dire que je suis pas en train de me dire j'ai jamais su dire dans 5 ans je serai là, quoi. Ça c'est dans les formations en management, il fallait toujours s'imaginer, il fallait même des fois s'écrire des lettres à dans 5 ans. Et dans 5 ans, écrivez-vous à dans 5 ans pour savoir où vous allez être. Oh, moi j'étais là dans 5 ans, déjà l'an prochain. Et donc, je suis fière d'avoir passé outre ça et de me dire, je profite au jour le jour de ce qu'il y a, tout en prévoyant quand même la suite, mais sans faire des plans sur la comète, quoi. Enfin, voilà. Et que rêve à soi, ce soit le truc qui me permette d'être épanouie comme ça, et tant mieux, et advienne que pourra, quoi. Voilà.
Et donc là, financièrement, aujourd'hui, bon, tu as eu le droit au chômage après la fin avec Thalès?
Non, j'ai pas eu le droit au chômage puisqu'il s'était passé 2 ans.
D'accord.
Mais en fait, donc je gagnais pas autant que chez Thalès, mais maintenant, avec les formations pro, les cours présentiels, les droits d'auteur et tout ça, en fait, si.
Ah, top.
En fait, si.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu croises et qui te dit que tu en es là uniquement grâce à de la chance?
Alors, pour partie, je ne peux pas le nier, mais c'est une espèce de chance que j'ai suscitée. C'est-à-dire que des fois, je suis allée chercher des gens, des fois, je suis juste allée rencontrer des gens, des fois, ça a été des belles rencontres. Au tout début, j'ai adhéré à une asso de femmes entrepreneurs qui s'appelle les Mampreneurs. J'ai rencontré des filles formidables avec qui j'ai fait des trucs super rigolos. Et puis, c'est aussi parce que je me suis aussi rendue visible, donc il y a aussi des personnes qui m'ont contactée par rapport aux valeurs et aux messages que je diffusais. Et puis j'ai avec ces gens-là, j'ai su être ouverte pour qu'on développe des choses, quoi. J'aurais pu très bien considérer certaines personnes comme tout de suite des concurrents. Moi, j'ai la particularité de considérer quand on contacte, on est avant tout, il y a un partenariat, il y a forcément un truc à faire ensemble. En fait. Et éventuellement après, ça se termine. Bon, bah décidément, on est concurrents, ok. Mais avant tout, on est partenaires potentiels et on peut sûrement faire un beau bout de chemin ensemble. Et ça, ça paye. Parce que, alors, sans être complètement bisounours, hein, il faut pas oublier que, voilà, il y a quand même des gens qui te contactent pour plus savoir ce que tu fais que faire un bout de chemin avec toi. Mais, ouais, ça, c'est quand même, c'est toujours, donc c'est toujours de la chance suscitée, améliorée, voilà. Je pense que c'est ça. Ouais, mais il y a forcément de la chance. Ouais.
Quel conseil aurais-tu aimé qu'on te donne ?
Oh ben juste un, c'est-à-dire en 2009, mais lance-toi quoi. Enfin, pourquoi il a fallu qu'on attende 2015 pour me dire ce que j'aurais pu entendre en 2009 ? Pourquoi j'ai vécu ? Alors, ça va être terrible pour les gens qui ont partagé du professionnel avec moi entre 2009 et 2015, et surtout qu'ils le prennent pas mal, mais j'ai quand même, à posteriori, j'ai quand même souffert pendant ces années-là. Ça a été dur pour moi. Je pense que j'étais décidément plus à ma place et que ça aurait été tellement plus simple pour, par certains aspects, de me lancer bien plus tôt et d'entendre ma petite voix bien plus tôt, quoi. C'était écrit dans mon bilan de compétences, encore une fois, hein. C'était écrit noir sur blanc. Je me suis juste pas laissé la permission d'y aller et d'oser explorer cette voie-là à ce moment-là. Voilà. Donc, ne tardez pas, n'attendez pas que votre corps vous dise halte au feu, stop, on n'en peut plus. N'attendez pas que votre environnement familial vous dise non mais là c'est bon, je lâche l'affaire, j'en peux plus. Enfin, il y a plein de messages qu'il faut savoir entendre et surtout se dire c'est pas un renoncement, c'est une deuxième vie. Je voulais vraiment, voilà, c'est une deuxième vie. Et je te disais que j'avais adoré le podcast avec Monsieur Blouin parce que je trouve que c'est génial sa manière de voir les choses. C'est que tu ne renonces pas à quelque chose, c'est juste que tu relances ta vie sur autre chose. Personne n'a jamais écrit ou que ce soit qu'on doit faire toute sa carrière dans la même boîte, qu'on doit faire toute sa carrière dans le même métier et même toute sa carrière en faisant la même chose. Donc voilà, moi j'adorais la couture et pourquoi je n'en ferais pas un deuxième métier pour relancer ma vie et être à l'aise avec ça. Il n'y a rien qui l'interdit, c'est écrit nulle part à part dans notre cerveau. C'est tout.
Et c'est quoi les meilleurs conseils qu'on t'ait donné ?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je pense justement, ces deux personnes, Corinne et mon mari, qui à coup sur coup m'ont dit lance-toi, quoi. Enfin, vas-y. Tu vois, qui n'ont même pas mis un bémol à quoi que ce soit, c'est t'es prête, lance-toi. Et voilà, sans aucun bémol, voilà, c'était vas-y, t'as qu'à y aller, quoi. Je t'ouvre la porte et t'as aucun frein qui bah, limite, t'as pas intérêt à me dire que t'as un frein qui t'empêche d'y aller, quoi. Tu vois, sinon tu vas te prendre de baffes, donc là t'es prêt, tu y vas et tu te lances et tu arrêtes de nous faire suer la vie et ça va bien se passer, quoi.
C'est quoi tes prochains défis?
Alors là, on est en train de lancer une suite de formations au-delà du CAP pour les élèves qui veulent progresser en modélisme, donc apprendre à faire leur propre patron. Je prends toujours l'exemple de la cuisine parce que ça parle mieux aux gens de la cuisine. C'est en fait en cuisine, on apprend déjà à appliquer les recettes des bouquins et des maîtres, et ensuite on apprend à créer ses propres recettes. Voilà. Ben en couture, c'est pareil. On apprend déjà à faire les vêtements tels qu'ils sont. Dans les patrons du commerce, etc. Et puis après, il y a vraiment le côté libération de la créativité qui est de pouvoir faire ses propres patrons. C'est-à-dire, tu prends une photo d'un vieux truc dans une friperie ou dans un super grand défilé de mode de Chanel ou Dior et tu fais, je veux le même, sur mesure, à mes mesures, à moi et que ce soit. Mais sauf que je veux celui-là avec ce petit bout de truc-là, avec ce col-là et ce machin-là. Et je vais être capable de faire ça et de me faire le patron de ça. Alors, soit à plat en papier, soit sur mannequin. Et donc, ça, c'est en cours. On a même commencé un peu à faire du teasing dessus.
Ça serait du coup en termes, ça serait quoi? Ça serait des cours vidéo, présentiels, un livre?
On reste sur de la formation à distance parce que pour nous, c'est important. On reste sur de la formation professionnelle parce que pour nous, c'est aussi important de pouvoir aider toutes ces personnes à valoriser ce savoir-faire et qu'encore une fois, en France, malheureusement, ça passe par les diplômes. Enfin, je dis malheureusement parce que je trouve qu'il y a tellement d'acquis à avoir sur le terrain que bon, mais c'est comme ça que ça fonctionne en France. Malgré tout, avec du présentiel, parce qu'on reste conscient qu'il y a quand même de la limite au distanciel et que voilà, ça fait un an et demi qu'on travaille comme ça, mais qu'on voit qu'il y a des choses qui nécessitent quand même de se voir et de partager. Et puis après, je dirais que on reste sur des bons projets de livres. Là, avec Erol, j'en ai déjà deux en projet. Donc là, on continue. Et puis je te dis, cette idée d'émission télé me trotte depuis quelques temps. En fait, je rêve de pouvoir démocratiser la couture encore au-delà. Donc j'ai cette idée d'émission télé, puis j'ai un doux rêve qui aboutira peut-être jamais, mais je lance le pavé dans la mare. Il existe une revue américaine de couture, mais de super bon niveau, qui s'appelle Shreds, comme des aiguillés de fil, et qui a un niveau mais génial, qui fait intervenir des experts, et ça sort une fois par mois, et qui vraiment, tu veux, élève la créativité à un point que, voilà, moi, je me régale avec cette revue, et je rêve d'en faire une édition française.
Génial.
Je suis un public français avec ça. Voilà, continuer à essaimer la passion plus largement, et de voilà, que tout le monde puisse, enfin pour moi tout le monde peut se coudre ses vêtements et se faire des trucs géniaux, et il y a aucune limite à ça, quoi. Il y a pas de raison.
Génial. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'équitte?
Surtout à mon mari, parce que c'est vrai que ce jour-là, tu vois, ça lève les larmes tout de suite. Non, c'est pas ce jour-là, s'il ne m'avait pas dit « Vas-y, lance-toi », je ne serais pas allée, quoi. Donc, c'est fou, hein, tu vois, 5 ans après, hop, ça y est, t'es déjà en train de pleurer. Mais merci. Et puis, merci à toutes ces belles personnes qui m'ont partagé ce chemin-là. L'équipe Artisane qui est super, l'équipe Erol, pareil. Enfin, je veux dire, tous ces gens-là, ils m'ont contacté, ils me connaissaient pas. On a fait des super projets ensemble et maintenant c'est des amis. Et puis surtout merci à toutes mes élèves parce qu'à chaque cours que je donne en présentiel, c'est des vrais moments de partage. Enfin, c'est des moments où moi, encore une fois, même 5 ans après, je rentre dans un cours avec un niveau d'énergie, je sors d'un cours, OK, je suis fatiguée, mais elles m'ont boostée dans leur créativité, dans leurs projets, dans les échanges qu'on a. Enfin, voilà, à chaque cours, je sens que je suis faite pour ça. Tu vois, il y a un côté, je me dis, mais voilà, comment j'ai pu passer à côté de ça? Parce que ça, vraiment, c'est ma passion. Quoi. Enfin, j'en sors boostée. Génial. Je pense que les santé, on partage, quoi. Ça, c'est partagé.
Et moi, je voulais te remercier parce que quand tu m'as contacté. Attends, il y a un écho. Non, c'est bon, ça disparaît. Je voulais te remercier parce que quand tu m'as contacté par email, tu me disais que tu avais je te cite, il m'a fallu 5 ans pour réussir à avouer mon histoire avec le entre guillemets le avouer et tu me disais dans ton mail que si tu m'avais contacté, c'était pour justement aider toutes les personnes qui passaient par les étapes par lesquelles t'es passé et que tu t'étais sentie super seule et que ce type de message ça faisait du bien, donc merci d'avoir partagé avec nous ton histoire pour aider justement toutes ces personnes qui se posent des questions et qui sont encore dans la zone de peur, mais ce qu'on va leur dire c'est que derrière la zone de peur il y a des très très belles choses qui se passent.
Merci à toi parce que c'est vrai que je suis tombée sur toi un peu par hasard, on va le dire, parce que tu vas faire une intervention au club.
C'était la semaine dernière, voilà.
Pardon. Et c'est vrai que ça donc au club des femmes Supélec, diplômées Supélec, enfin Centrale Supélec maintenant, parce que la petite histoire c'est qu'en plus l'école Supélec a fusionné avec Centrale depuis, hein, il y a quand même un truc assez rigolo. Et c'est vrai que à l'époque j'aurais eu plus de d'exemples de belles réussites de ce type-là, et je crois que c'est ce que tu essayes de mettre en avant, et puis même d'exemples de messages comme quoi c'était pas anormal, c'était même possible, c'était même tout à fait classique. Et même, t'es pas un ovni. Enfin, voilà. Moi, je me souviens de Monsieur Blouin disant, OK, on appelle ça la crise de la quarantaine, mais c'est juste parce que ça vient après 20 ans de carrière et que c'est normal qu'au bout de 20 ans, on s'essouffle. Mais moi, qu'est-ce que j'ai entendu? Oui, Christine, tu nous fais ta crise de la quarantaine. Ben non, en fait, j'avais pas cette impression-là. Mais sauf que, à l'époque, c'est quand même des messages toxiques que j'ai entendus et qui, ça a été difficile quand même de me séparer d'une partie de ces gens-là parce que je me disais, oh, non, mais, tu peux pas continuer à entendre ce genre de message parce que sinon toute la journée ça va te freiner quoi. Donc j'en avais beaucoup entendu avant de me lancer et je pense que c'était intéressant de ça aurait été intéressant d'avoir ce genre de message un peu tu vois toutes les semaines cet épisode qui te dit allez vas-y tu peux y aller c'est bon.
Ça va bien se passer.
Ça j'ai pas eu et c'est vrai quand j'ai découvert ton podcast je me suis dit mais waouh c'est d'avoir ces messages-là toutes les semaines, ça donne la pêche, quoi.
Merci beaucoup. Je mettrai le lien vers ton site, vers ton livre dans le billet de blog sur pourquoipasmoi.co. Oui. Comme ça, si des personnes ont envie de découvrir plus ton univers, ils auront tous les liens de Rêve à soi.
Bah écoute, et puis nous, on partagera les podcasts et tu sais que j'en partage un certain nombre. En général, c'est mon post Facebook du week-end. Si j'ai aimé le podcast de la semaine, je le repartage parce que j'ai beaucoup d'élèves qui se posent ce genre de questions de manière globale. Et je sais qu'il y a quelques-unes qui m'ont dit « Ah, mais j'ai découvert grâce à toi et ça fait du bien. »
Ah bah génial. Merci beaucoup, Christine.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'ai une très bonne nouvelle. Pour gagner 3 exemplaires du livre de Christine, rendez-vous sur Instagram avec le compte pourquoipasmoi.co. Autre bonne nouvelle, qui est sortie officiellement hier, Christine sort un nouveau livre, toujours chez Erol, qui s'appelle « Mes techniques de couture pour que plus rien ne vous arrête ». Il paraîtra fin septembre. C'est une nouvelle bible pour toutes les couturières, sous forme de questions-réponses classées par grandes thématiques. Les choix du tissu, la préparation du patron. J'ai eu la chance de recevoir le livre « Passez votre CAP couture » de Christine et je peux vous dire que ça m'a donné envie de ressortir ma machine à coudre. Allez, je vous dis à jeudi prochain dans un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?